Et puis tout de suite et en direct, le libre journal de Serge de Bekech. Bonne soirée à vous tous, vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 11 avril 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la Résistance, bonsoir. Alors, je dois souhaiter un prompt rétablissement à Victoria. J'ai appris qu'elle faisait de la gymnastique, puisque c'est un rétablissement. C'est quand on était à l'armée, mon cher Goff, on faisait des rétablissements. Alors, Victoria, rétablissez-vous vite, parce qu'elle a un rhume, mais un gros rhume.
Un rhume des foins, peut-être.
Je ne veux pas demander où elle l'a attrapé. Je pense qu'elle, effectivement, elle a dû l'attraper couchée dans le foin avec le soleil porté.
Les bons médias nous disent qu'il y a deux fois plus de pollen en l'air que d'habitude. Donc, elle est deux fois plus malade.
Et les pollens étrangers, en plus. Ça vient de l'étranger, le pollen.
200 km parcourt le pollen.
Ah ouais.
J'écoute la radio attentivement.
Sauf le pollen du marronnier d'Inde, qui est très dense et qui tombe au pied de l'arbre. C'est curieux, ça. Vous ne saviez pas ça?
Non, vous me
non, moi, je le savais, je le sais depuis hier. Chaque jour, apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est utile dans la conversation, quand même. Hier, quand j'ai appris ça, j'aurais jamais pensé que j'aurais l'occasion de placer ça aujourd'hui. Et de en faire profiter l'auditorat. Jean-Pierre Rondeau, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir les auditeurs.
Bonsoir les auditeurs.
Et les auditrices. Et le troisième sexe.
Et bonsoir docteur.
Bonsoir monsieur.
Alors vous avez reconnu la voix du docteur Dor, qui va encore dire du mal des avorteurs tel que je le connais.
Pas des francs-maçons j'espère.
Oh, bah, ça manquerait plus que ça alors. C'est pas chez moi en tout cas, je vous le dis. Alors là, que le silence règne sur l'une et l'autre colonne. Je reçois également Monsieur Degoy qui a écrit un livre intitulé
Voter utile
est inutile.
Un livre d'actualité.
Qui est un livre, je peux le préciser quand même dès le départ, dont le titre n'a à peu près rien à voir avec le contenu. Et ça, c'est les fantaisies d'éditeurs. Je suis Max Milo, Mad Max, alias Mad Max, qui est un bon éditeur, semble-t-il, parce que il fait des bonnes choses. Mais là, il a voulu appeler ça voter utile est inutile, alors que c'est beaucoup plus le titre que vous vouliez, vous préfériez.
Oui, le sous-titre.
Le sous-titre, je le trouve beaucoup plus beau. C'est, il est presque japonais, il a un côté haïku. Petit manuel de sagesse pour un monde en crise.
Ben, c'est déjà plus sage, parce que est-ce que l'éditeur de notre ami lui a pas joué un mauvais tour? Parce que c'est un livre d'actualité aujourd'hui, mais dans 15 jours, il se vendra plus.
Si, parce qu'après, il y a les législatives.
C'est vrai.
Puis après, il y a les municipales.
Ah oui, ça n'arrête pas.
Si on est en démocratie, la seule occupation des gens, c'est de voter. Maintenant.
C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens, en effet, que... Ouais. À force de voter, on arriverait à quelque chose.
Alors, je le signale tout de suite, comme ça, ce sera fait. Quand vous aurez entendu M. Dugois, c'est
Dugois.
Dugois. Pourquoi j'ai dit Dugois? Oh là, alors on n'est pas sorti de l'Ouest, parce qu'en général, quand je me trompe sur un nom, c'est définitif, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Alors, M. Dugois, quand vous l'aurez écouté, vous pourrez le voir en chair et en os, demain, 12 avril 2007, à partir de 18h, à la librairie Murat, nos amis de la librairie Murat, qui se trouve d'une façon assez inattendue, boulevard Murat, au 122,
tout près.
C'est tout près, métro Porte de Saint-Cloud, donc il signera son livre à 18h, voilà. Et mais avant d'aller faire signer le livre, il faut que vous sachiez si vous avez envie de le lire, et on va essayer de s'employer à vous donner cette envie. Bonsoir François Robot.
Bonsoir à tous et bonsoir.
Vous avez provisoirement une petite place là sur laquelle vous pouvez vous poser puisque nous avons le marquis n'est pas là non plus. Alors le marquis il est où? En Espagne, il est parti chercher les revenus de ses nombreux apanages.
En disant pas trop, mais enfin c'est la troisième absence consécutive, il va finir par être sanctionné j'espère.
Mais attendez, il passe son temps à se balader à travers le monde. Il y a bien un moment où il faut qu'il trouve du fric. Alors quand on s'appelle Chirigas de Olmeta et autre lieu découvert à marée basse.
On a des châteaux en Espagne.
Et quand on a des châteaux en Espagne, il faut aller toucher les loyers. Voilà.
Puis il ramène des chroniques quand même.
Il rapporte.
Il rapporte, s'il vous plaît.
Qui lui rapporte, en revanche, pas grand chose, je peux vous le dire.
Voilà, c'était la voix de Jean-Pierre Rondeau, notre spécialiste économique indépendant, et François Robot, qui fait son entrée, et notre chroniqueur gastronomique, je le rappelle aux auditeurs.
Tout aussi indépendant.
Qui n'aurait pas la radio en couleur ou qui nous rejoindrait. Pour la première fois, il naît un auditeur chaque jour, et même davantage, se plaisait à dire Jean Ferré.
Alors moi je suis extrêmement déçu, figurez-vous, je m'en vais vous dire pourquoi, sans désemparer comme disent les gendarmes, parce que un de mes objectifs dans la vie, c'était de devenir président de la République. Or, figurez-vous que l'homme que je respecte le plus au monde, après moi-même, c'est-à-dire le président Jean-Marie Le Pen, vient de faire savoir que il semble que le président de la République, le chef de l'État, est un homme dont la fonction implique une incarnation de la nation et du peuple. Et il a ajouté que, en fait, quand on n'est pas 100% français depuis 276 générations, on était mal placé à revendiquer la présidence de la République. Alors, ça m'embête un petit peu, pas beaucoup, parce que, à vrai dire, moi je préférerais être roi. Mais c'est encore plus difficile que de devenir président de la République quand on n'est pas français.
Mais ces propos sont ignobles.
Mais ils sont absolument calamiteux. Et, non, ce que je veux dire, c'est que ça se heurte. Bon, c'est intéressant comme position. L'ennui, c'est qu'elle intervient, enfin l'ennui. Ce que je comprends mal, c'est qu'elle intervient une semaine après qu'il soit allé dire aux jeunes gens de la dalle d'Argenteuil, c'est ça, Argenteuil? Quelle dalle? Quelle dallesse?
Serge, est-ce que vous ne confondez pas? C'est Jean-Marie Le Pen qui s'est rendu sur la dalle d'Argenteuil. Monsieur Sarkozy y est tricard, vous le savez bien.
Bah, c'est ce que je vous dis. Ah, c'est pardon. Le Pen qui a dit que...
Ah oui, pardon.
Il faut me suivre un peu.
Oui.
Donc, un jour, il explique à la beuritude que beuritude et francitude ne sont pas incompatibles. Et puis là, maintenant, il nous explique que pour incarner le peuple français, il faut être français à 100% depuis 12 générations. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que ça se heurte à une difficulté, c'est que du coup, ça devient plus compliqué d'être président de la République que d'être roi de France. Parce que je voudrais attirer l'attention de mon nombreux public sur un phénomène vérifié, c'est que la plupart des rois de France avaient une mère étrangère. Des autrichiennes, des espagnoles, des polonaises, va savoir quoi encore. Or le roi, si quelqu'un incarne le peuple, incarne la France, c'est bien le roi, avant le président de la République, je trouve. Donc, déjà, première chose. Et ensuite, moi je suis très embêté, j'allais dire une grosse certitude, parce que je me trouve finalement dans la situation de Sarkozy. Sarkozy, il est né en France, d'un père hongrois, enfin c'est hongrois qu'il était, hein, c'est ça, qui s'était engagé dans la Légion étrangère. Moi aussi. Enfin,
ça vous rapproche de Nicolas,
c'est touchant. Non, mais oui, mais c'est pas pour ça que je vais voter pour lui. Alors je suis quand même confronté, n'est-ce pas, à quelque chose qui est difficile, c'est que je vais être obligé de voter pour quelqu'un qui finalement vient de me faire savoir que si j'avais le droit de vote, c'était vraiment limite.
Je peux intervenir ou...
Oui, ben, bien sûr, mon cher Rondovitch.
Bon, je crois qu'il faut le resituer dans le contexte dans lequel ça a été dit. Et c'était un double contexte d'ailleurs, puisque c'était...
Un contexte.
Nous recevons l'avocat de Jean-Marie Le Pen.
Non, c'est parce que ça m'a étonné aussi, d'autant que moi-même j'ai la moitié de sang espagnol,
Vous ne serez jamais président.
Je ne serai jamais président de la République. Et j'ai des oncles qui, par contre, étaient à Monte Cassino. Ils s'appelaient Del Castillo, pendant qu'une partie de ma famille, en dehors de mon père, attendait que les Allemands soient partis. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le contexte, et j'ai relu, parce que ça m'avait étonné, j'ai relu aujourd'hui dans quel contexte c'était dit. Ça a été dit dans le fait que Sarkozy avait d'abord dit qu'il aimerait bien être américain s'il pouvait, premier point. Et deuxième point, donc, parce qu'il faisait effectivement référence à ses origines, mais surtout c'était parce que il y avait une déclaration de Madame Sarkozy se vantant qu'elle n'avait pas une goutte de sang français. Et donc il y a eu ce matin d'ailleurs une attaque, semble-t-il, assez forte de Marine Le Pen contre Madame Sarkozy. Donc je crois qu'il faut pas qu'on tombe dans le piège de sortir des déclarations hors de leur contexte.
Ah, mais
rapport à un candidat qui se disait le candidat des États-Unis et qui vantait effectivement ses origines étrangères, Le Pen a certainement voulu rappeler que il représentait aussi la France
du terroir
et que être français à part entière de plusieurs générations n'était pas un crime.
C'est une explication à terroir que vous devez donner.
Non. Je pense que c'est la bonne explication, relisez, vous verrez.
Ce qui m'a frappé, moi, dans cette affaire, c'est que Le Pen est allé plus loin. Il a dit que Sarko était candidat issu de l'immigration, que lui-même était un candidat du terroir, et que c'est le Parti Socialiste qui s'est interposé, qui a pris la défense de M. Sarkozy immédiatement. Alors, voilà qui justifie peut-être le sigle UMPS, et qui remet à l'esprit l'accord très profond qui règne entre l'UMP et le PS sur une quantité de problèmes. J'en citerai qu'un, le trucage des chiffres du chômage. C'est le PS qui a inauguré les exclusions, les radiations systématiques de chômeurs, le déguisement des chiffres du chômage. L'UMP contresigne, et il y a un accord entre eux, visiblement, pour maintenir l'omerta là-dessus. Peut-être sont-ils d'accord même sur d'autres questions encore.
Qui ?
L'UMPS.
Ah oui, je comprenais plus du tout, moi. En tout cas, je ne serai jamais président de la République.
Moi non plus.
Robot, vous avez des chances de vous en tirer, vous ?
Non.
Non plus. Et vous, docteur ?
Moi, je crois que je m'en tirerai.
100% français depuis combien de générations ?
Du côté maternel, je suis savoyard. Rattachement à 1861.
Mais bien-aimé président Le Pen lui-même, étant breton... Sauf erreur de ma part.
Oui, c'est vrai, la Bretagne,
la Bretagne n'a pas été française toujours. C'est une époque où Breton, comment on disait ?
J'ai oublié, je ne veux pas attirer les foudres du CSA sur notre petite station.
Non, non, mais les Bretons n'étaient pas français, je suis désolé. Les Français, c'était le précaré. Déjà, Corbeil-Essonne, c'était pas français. Maintenant non plus, d'ailleurs.
Vous vous souvenez de ce sondage du Monde, Serge, sur la cote d'amour des étrangers? Alors, certains de nos amis extra-européens étaient les plus mal placés, mais il y avait 12% de Français qui détestaient les Bretons dans cette liste d'étrangers.
Mais de toute façon, dans quel que soit le sondage, il y a toujours 10 à 12% des Français qui disent des conneries. Et vous-même, Goffman, si j'en crois votre patronyme, ne soyez pas totalement...
Oui, mais moi, je suis un bon immigré, Serge. C'est ça, ouais. La différence que vous faites semblant de ne pas comprendre.
Bon, alors ça, j'ai rien dit. Donc, mais par ailleurs, moi, je suis public de la nation, moi.
Ah, comme Le Pen.
Donc, voilà. Donc, j'ai la même nationalité que ma mère. Oui, la c'est nation bien. Étant ma mère. Voilà, enfin, tout ça est compliqué, mais moi, je crois que l'explication à tout ça, elle est tout à fait ailleurs. C'est que, en fait, c'est pour préparer le terrain de la succession à Marine. Parce que Marine, elle est française 100% depuis 12 000 générations. Tandis que Gollnisch, par exemple, pour ne parler que de lui. Gollnisch, il est un peu boche, faut bien dire. Je crois qu'il a un arrière-grand-père qui était un peu allemand sur les bords.
Ou alsacien.
Non, allemand. Bah non, alsacien, j'oserais pas critiquer, mais
allemand,
on peut y aller. Oui, mais c'est absolument, c'est grave. Et en plus, Madame Le Pen elle-même.
Ou autrichien. Je sais pas.
Non,
elle est
grecque.
Allemand.
Oui, allemand.
Non, on en était à Madame Le Pen qui est grecque.
Madame Le Pen est grecque. Enfin, d'origine grecque. Finalement, ce pays est plein d'étrangers, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter, fermer les portes. Voilà. Hein?
Très bonne idée.
D'accord? Bon. Bien, et ben voilà une bonne chose de dite quand même pour Monsieur Baudin, lui il est quoi?
Baudin, je prononcerai moi aussi, ça vous dérange pas trop.
Il est
tzigane, il est yéniche. Alors j'ai entendu à la radio qu'il parlait qu'alsacien. Non, j'ai lu dans Présence ce matin qu'il ne parlait qu'alsacien quand ça l'arrangeait. Mais c'est plus grave que ça. Les Alsaciens ne le comprennent pas parce qu'il parle yéniche, qui est un dialecte tzigane extrêmement localisé.
C'est comme lui qu'il parle d'ailleurs. On va en reparler tout à l'heure de
ce garçon.
J'espère que l'avocat de la famille d'une des petites victimes de Baudin, qui est Valerande Saint-Just, nous appellera. Peut-être que Franck peut essayer de le joindre. J'ai essayé tout à l'heure, il était sur son portable, mais peut-être parce que les audiences ne sont pas terminées.
Eh ben, ce serait bien, Serge, parce que il se trouve que le Parisien Libéré interroge deux familles de victimes aujourd'hui, puisque le procès Baudin a commencé aujourd'hui à Strasbourg, mais pas la famille de Jeanne-Marie. Alors, on va faire notre petit travail habituel de compléter les malheureuses omissions de nos gros confrères.
Alors, il faut quand même faire remarquer une chose, c'est que Baudin, il aura fait 8 ans de prison pour avoir... parce qu'avant, il avait déjà tué des gens, il avait déjà...
Violé, en tout cas.
Violé, volé, braqué, matraqué, enfin, etc. Il avait pris 30 ans. 30 ans de réclusion, réclusion à perpétuité, donc 30 ans non compressible. La Cour de cassation a cassé en disant que c'était pas conforme à la loi et qu'il ne pouvait pas être condamné à plus de 20 ans de peine non compressible. Moyennant quoi, il est sorti de prison au bout de 8 ans et 3 jours après être sorti, il a fait ce qu'on sait, là, il a... Donc, tuer deux petites filles et une jeune femme. Et il les a tuées, d'ailleurs, d'une façon assez extraordinaire. Personne n'a souligné ça, puisque vous parliez du dialecte yéniche, qui sont une des tribus, enfin, qui est le parler d'une tribu de Rome, ou de Tzigane. Et il les a assassinés, bizarrement, en suivant certains rituels propres à la tradition rome, c'est-à-dire notamment en jetant les corps dans l'eau pour que l'âme du défunt soit emportée par le courant et ne puisse pas revenir tourmenter l'assassin. Curieux, ça.
Retrouvés en état de décomposition avancée dans les rivières des environs, les cadavres de ces trois victimes étaient dénudés. Alors ce sont, rappelons-le, une jeune femme de 38 ans, une fillette de 14 ans et une de 10 ans. Étaient dénudés, tous atrocement mutilés. Je cite le Parisien Libéré d'aujourd'hui, pas détective. Tous atrocement mutilés à l'arme blanche dans la région du bas-ventre, étaient partiellement éviscérés à la façon de vider un gibier après une incision abdominale, décrit un expert. Avant de mourir, la petite Jeanne-Marie, 10 ans, a été collectivement abusée par plusieurs membres du clan Fourman. On s'arrête là, peut-être.
Oui, on peut peut-être en rester là.
Mais il fallait le dire, quand même.
Oui, il fallait le dire. Il fallait dire aussi que... les journalistes qui sont jamais en retard d'une précision, un des journalistes qui s'est un penché sur cette affaire a trouvé une circonstance aggravante, c'est que on se demande à quoi ils pensent les gars quand ils sont devant leur machine à écrire. Les corps ont été jetés dans de l'eau froide. C'est probablement que si ça avait été de l'eau chaude, ça aurait été moins grave. Ça lui valait les circonstances atténuantes. Je me demande si on ne fait pas un métier dans lequel il y a beaucoup d'imbéciles. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick?
J'en ai peur. Ouais, il y a l'imbécilité, puis il y a la servilité. C'est-à-dire que vous savez bien ce qui nous arrive si on la ramène un peu trop dans les gros médias qu'on a connus l'un et l'autre. Oui. On finit par être poussé petit à petit dans le ghetto d'extrême droite. Mais finalement, on n'y est pas si mal que ça. Je voudrais dire, Serge, revenir sur ce que vous parliez des années de prison de ce monsieur Bodine. On a calculé, comme il a bénéficié de la confusion des peines, on a calculé qu'il lui avait été remis 45 ans de prison. On rapprocha du fait que 30 à 40% des peines de prison ferme ne sont jamais exécutées. Et on peut comprendre que le Parisien Libéré, excusez-moi de le citer une troisième fois, est titré en grosse manchette ce matin. C'est le procès de Bodine et c'est le procès de la récidive. Quand on tourne la page, on comprend que c'était une périphrase pour ne pas dire le procès de la justice. Il y a vraiment un problème. Ce monstre a esquivé, a été remis pendant que notre ami Lajoie est depuis 20 ans en prison.
C'est d'autant plus le procès de la justice que Michel Lajoie termine là sa 20e année de prison pour avoir, et ça c'est vérifiable, jeté dans un bistrot arabe un pétard qui non seulement n'a blessé absolument personne, mais n'a même pas fait assez de dégâts dans le bistrot pour que les assurances acceptent de rembourser quoi que ce soit. Il a pris perpétuité avec 18 ans non compressibles et il n'arrive pas à obtenir sa liberté conditionnelle. Alors il paraît qu'il vient de l'obtenir là, mais les contraintes qui lui sont imposées permettront, s'il fume dans l'entrée d'un restaurant, il retourne en taule.
S'il nous parle au téléphone.
S'il nous parle au téléphone, s'il nous écrit, s'il s'adresse à la presse, s'il s'adresse à des militants nationalistes, sans le savoir, il est immédiatement de retour en prison. Alors, cette justice-là, j'ose pas dire ce que j'en fais, mais j'en fais un usage...
Non, on va plutôt se dire, Serge, comparer ce cas, plutôt qu'à celui de Bodine, à celui de M. Bidart, l'indépendantiste basque, ouais, qui lui avait tué plusieurs gendarmes et policiers, et non seulement il peut téléphoner, mais il peut brandir le drapeau basque et faire des déclarations fracassantes en sortant de prison beaucoup plus vite que Michel Lajoie. Ouais.
Et moyennant quoi, d'ailleurs, Clément dit, mais alors, c'est inadmissible, on va le renvoyer en prison, vous allez voir ce que vous allez voir, puis on n'a rien vu du tout, parce que Bidart, elle est toujours en liberté, tout simplement. Je pense d'ailleurs que les jeunes gens qui ont tué avant-hier un policier à la foire du trône n'ont pas trop de soucis à se faire, parce qu'apparemment, tuer un gendarme, un policier, en ce moment, c'est pas trop, trop mal vu.
D'abord par la préfecture de police, qui s'empresse de communiquer à l'AFP que c'est un accident, en contredisant les témoins.
D'abord, la chose extraordinaire dans cette histoire, c'est que la thèse de l'accident a été émise par la préfecture de police sur ordre du cabinet de Barouin immédiatement. C'est-à-dire qu'avant même que Barouin soit sur place et puisse recueillir le moindre témoignage, personne ne savait ce qui s'était passé sauf les gens qui avaient assisté à la scène, et j'ai eu au téléphone quelqu'un qui a assisté à la scène et qui m'a confirmé de la façon la plus formelle, c'est un forain d'ailleurs, que le policier avait été, il y avait 15 jeunes, une quinzaine de jeunes qui étaient montés sur la plateforme d'embarquement de la nacelle, et qui importunait, mais plus qu'importunait, qui bousculait, qui maltraitait les gens qui faisaient l'accueil. Ils passaient devant eux, ils s'installaient dans la salle sans payer, sans rien. Enfin bon, on connaît ces méthodes, les méthodes de la jungle. Et finalement, quelqu'un a appelé les flics sont venus, ils sont montés pour dégager les jeunes, et là, il y en a un qui l'a pris et qui l'a poussé. Alors, la plateforme, elle est interdite d'accès, forcément, puisqu'il y a ce danger des nacelles qui tournent à toute vitesse. Et là, comme les gars étaient montés, les policiers sont montés pour les dégager à leur tour, il y a eu une bousculade, et un des jeunes qui était là a poussé le policier, qui a trébuché, et qui a été pris de plein fouet par la nacelle qui arrivait. Il a été littéralement, pas décapité, mais enfin, il a été broyé par cette nacelle. Il est mort tout de suite. Eh bien, il y a plusieurs témoins qui ont vu. Il y a deux personnes qui faisaient la queue pour monter dans le manège. Et il y a un voisin, le propriétaire d'un métier, enfin, un employé d'un ce que les forains appellent un métier voisin, c'est-à-dire un ménage-voisin, qui a vu la scène et qui a témoigné. Avant même que ces témoignages soient déposés et soient connus, Barouin, lui, savait que c'était un accident. Alors, évidemment, on comprend que quelques jours après l'affaire de la Gare du Nord et quelques heures après deux autres affaires qui sont produites en banlieue parisienne, dans l'Essonne et en Seine-Saint-Denis, dans l'après-midi qui a précédé, enfin dans les heures qui ont précédé la mort du policier, toutes les deux dans des hôpitaux d'ailleurs, dans un hôpital, deux bandes rivales se sont battues. Après cette battue à l'extérieur, il y a des gars qui ont été transportés à l'hôpital parce qu'ils étaient blessés à la suite d'un trafic de drogue, enfin d'un différend sur un trafic de drogue. Ils se sont battus dans les couloirs de l'hôpital. Et à l'hôpital francilien de Corbeil-Essonnes, où c'est plutôt ça s'est passé à l'hôpital francilien de Corbeil-Essonnes, et à l'hôpital Saint-Denis, la même après-midi, au même moment, il y a une bande armée qui est arrivée arme au poing pour libérer un chef de gang qui était dans une chambre et qui était sous la protection d'un policier, enfin sous la garde d'un policier, le dit policier qui était tout seul, n'ayant eu que la ressource de se planquer et de tirer un coup de feu d'avertissement, d'un coup de semonce au plafond, pour faire fuir les gars. Je pense d'ailleurs qu'il va être sanctionné pour avoir fait usage de son arme, comme c'est d'habitude, sauf bien entendu dans le cas de l'escroc Granemort, qui lui, entre deux cambriolages sur la carte bleue de son beau-père, tue les amateurs de football au motif qu'ils sont suspects d'extrême droite. Et alors lui, il a même pas été condamné.
Au contraire, on va le décorer.
Je pense qu'il va être décoré, mais il a même pas été mis.
Un Antillais qui tue un sale facho, c'est bien, c'est la légion d'honneur.
C'est normal. Donc il n'a même pas été privé de son droit d'exercer son métier.
Mais on ne peut que s'étonner, Serge de Bekech, que cette mort d'un policier étant tardée, puisque nous le disions la dernière fois, on en est à 10 000 policiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions rien que cette année. Et ça, par contre, on ne peut pas s'en étonner, puisque nous savons très bien, des policiers de haut rang nous l'ont dit et répété, qu'ils ont consigne de ne pas se défendre, qu'ils sont livrés aux jeunes sauvages, les mains attachées dans le dos.
Voilà.
Les jeunes sauvages en sont réduits à se tuer eux-mêmes, d'ailleurs, en rentrant dans des centres de transformation électrique.
La réaction essentielle des journalistes, ça a été de dire « ça fait bien les affaires de Le Pen ». Vous avez entendu ?«
Salaud de Le Pen hein. ».
Non, je vous le dis, c'est voilà, je savais, c'est lui qui a monté le coup.
On pourrait le reformuler comme ça, Serge. C'est la faute à Le Pen. Je vous propose ce slogan.
Mais non, mais ça, c'est le slogan que vous est réservé, mon cher Goffman. Ben c'est la faute à Goffman une fois pour toutes. Bon. Voilà, c'est Maître Valent de Saint-Just. Alors je vais coiffer le casque. Et comme j'aime à le dire, contrairement à nos amis d'Outre-Rhin, en évitant de mettre la pointe à l'intérieur. Alors, Valerand de Saint-Just.
Oui, oui.
M'entendez-vous, maître?
Je t'entends.
C'est bien. Alors, je voulais savoir, c'était la première journée du procès Bodin.
À Strasbourg.
Voilà.
Comment se sont... Oh, j'entends une voix blanche de quelqu'un qui est secoué, on dirait.
Oui, un peu, oui, oui, ouais. Oui, c'est très difficile à supporter. On est vraiment dans l'horreur la plus complète et très secoué, mais en même temps transporté par la fermeté de la famille Kegelin. Alors c'est un procès considérable sur le plan de l'organisation, sur le plan médiatique. Nous avons en face de nous 19 co-accusés, et dont les principaux nient farouchement l'absolue évidence d'ailleurs. Et notre travail pendant 3 mois, ça va être de les faire déclarer coupables et peut-être de les faire avouer, ce dont je ne désespère pas.
Alors, quelle est l'atmosphère de la salle d'audience?
C'est une atmosphère extrêmement tendue, parce que sur 19 co-accusés, il y en a 13 ou 14 qui sont en liberté provisoire, 4 ou 5 simplement qui sont détenus pour des raisons sur lesquelles je passe, mais donc la promiscuité et les réactions de ces, notamment de ceux qui sont en liberté et qui sont là comme détenus libres, est assez difficile à supporter. Enfin, c'est ça les grosses difficultés de cette affaire.
Les familles des victimes sont là?
Ah, tout le monde est là.
Tout le monde.
Une scène tout à fait extraordinaire ce matin où ma famille Kegelin, presque au complet, a tenu à rester debout pendant un certain nombre de minutes.
C'est la famille de la petite Jeanne-Marie, maître, que vous représentez, n'est-ce pas?
C'est ça, exactement, exactement. Tenu à rester debout devant les accusés qu'on introduisait, que le GIPN introduisait pour bien leur marquer qu'ils étaient là devant eux et qu'ils allaient leur faire face pendant 3 mois.
Pourquoi n'a-t-on pas dissocier les affaires? Parce que bon, il y a viol, il y a enlèvement, il y a assassinat.
Il y a surtout trois crimes sur trois jeunes femmes, jeunes filles, la petite fille Jeanne-Marie qui avait 10 ans, Julie Charge qui avait 14 ans et Edwige Vallée qui en avait 25. Et Pierre Bonin est accusé de ces trois crimes, de viol, de meurtre et d'actes de barbarie sur ces trois personnes, actes de torture et de barbarie. Sur ces trois personnes. Alors, les trois affaires sont jugées en même temps, mais successivement. D'abord, l'affaire de Jeanne-Marie sera examinée, puis les deux autres. Et à la fin, les avocats des parties civiles plaideront, le réquisitoire sera commun. Vous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas dissocié? Il fallait bien prendre une décision quelconque. Un procès, trois procès, un procès pour les trois affaires, voilà. C'est extrêmement difficile à organiser. Je peux simplement remarquer que depuis que ces drames sont arrivés et que les protagonistes ont été arrêtés, la justice française a fait son travail. Il faut dire qu'elle avait intérêt à le faire, parce qu'elle a extraordinairement à se racheter dans cette affaire, puisque on a relu tout à l'heure les antécédents judiciaires de Pierre Bodin. Si Pierre Bodin a pu commettre ces trois assassinats en juin 2004, c'est qu'il avait été mis en liberté de façon scandaleuse.
Anticipé, enfin, déjà.
Oui, enfin, en disant ça, je n'accuse pas les personnes physiques, juges d'application des peines, notamment, qui ont pris les décisions. J'accuse, comme toujours d'ailleurs, les politiques, le système gouvernemental, qui n'a rien fait, qui est d'un laxisme absolument extraordinaire. Et nous reviennent en mémoire d'ailleurs tout ce que nous avons pu dire à l'époque, en interpellant les gardes de Sceaux, je crois que c'était le dénommé Perben à l'époque, et qui avait dit, bien entendu, on va prendre des mesures immédiates. Et depuis, rien n'a été fait, rien n'a été transformé, rien n'a été amélioré, et ce genre de drame épouvantable peut recommencer. Il faut savoir que Pierre Bonin, légalement, on lui a rogné environ 40 ans de prison.
C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Il a eu quand même droit deux fois à des arrêts de cassation.
Oui, c'est ça.
Pour des raisons purement de caractère
purement juridique. La cassation n'a fait qu'appliquer les lois votées par les politiques, qui interdisaient que l'on additionne les peines de prison qui avaient été prononcées successivement, et qui constatait que pour tel ou tel fait, on ne pouvait encourir que 20 ans, etc., etc. Ce qui fait que, ayant été condamné à 60 ans de prison au total, il n'en a fait que 14.
Mais il y a eu également des expertises psychiatriques qui ont été faites.
Ah oui, il y a des dizaines d'expertises psychiatriques. des dizaines d'expertises psychiatriques. Pierre Baudin a réussi à se faire passer pour fou, à tromper complètement les experts. Et ça lui a permis de pouvoir s'évader d'hôpitaux psychiatriques. On l'a mis en liberté pour des raisons médicales. Il a immédiatement le lendemain cambriolé une villa. C'était un fou complet. Il n'avait plus sa raison à lui, mais ça lui permettait de cambrioler une villa. Enfin, ce monsieur a tout fait. Ça n'a attiré l'attention d'aucune autorité. Si ça avait attiré l'attention de la moindre autorité, Jeanne-Marie Quesnin, Julie Charles et Edwige Vallée n'auraient pas été assassinés en juin 2004. On peut même considérer dans des affaires comme celle-là, compte tenu du caractère totalement frustre des accusés que nous avons devant nous, les politiques plus responsables que les assassins eux-mêmes des meurtres de ces trois personnes.
C'est aussi le procès de l'abolition, parce qu'un personnage comme Baudin, s'il est reconnu coupable, c'est l'occasion jamais de le couper en deux, parce que je vois vraiment pas ce qu'on peut en faire.
Évidemment, mais il y a plus, d'ailleurs, il y a plus à ce sujet-là. Moi, je serais presque plus, enfin, je n'ai pas voulu faire de provocation, mais plus pour l'existence de la peine de mort que pour son application. Parce que ce qui va être terrible dans cette affaire, c'est que, suite à l'instruction, aux menaces que les chefs de clan ont pu faire régner, etc., la plupart, et surtout Pierre Baudin et Georges Ametter, depuis le début, disent « je n'étais pas là ce jour-là ». Tous les accusent, mais ils disent « je n'étais pas là ce jour-là ». Ils peuvent continuer dans ce système de dénégation parce que cela est complètement égal d'être en prison par rapport à l'endroit où ils vivent habituellement. Quand la peine de mort existait, l'avocat allait voir son client quelque temps avant, lui disait « Monsieur, si vous ne reconnaissez pas l'évidence, c'est l'évidence, et si vous ne regrettez pas un peu à la cour d'assises, vous allez droit à la guillotine. La seule façon d'y échapper, c'est de reconnaître. » Et l'accusé faisait ce geste extraordinaire. Il y avait de la cour d'assises, des victimes, de la société et de lui-même, qui était d'avouer et peut-être de se repentir un peu. C'était ça le bénéfice extraordinaire de l'existence de la peine de mort. Ceux qui ont supprimé cette peine de mort, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils supprimaient ces bénéfices? Je ne sais pas, ce serait peut-être leur faire crédit d'intelligence qu'ils n'ont peut-être pas.
Il y a presque une dimension préternaturelle dans cette affaire, puisque on voit Baudin, lors de son premier procès, qui apparaît comme un débile, qui prétend ne pas parler français, qui demande un interprète d'Alsacien, qui tient des propos totalement incohérents. Et là, ça c'était le premier procès en 92, je crois, et là, les radios nous expliquaient ce matin qu'il était entré dans la salle d'audience comme une star du showbiz.
Faut pas exagérer non plus.
C'est mais ce que disaient les radios, hein, moi je...
Oui, enfin bon, d'accord, faut qu'il y ait toujours qu'elle exagère un petit peu. Mais, si tu veux, Pierre Baudin est quelqu'un de certainement intelligent, qui a réussi à tromper tout le monde, mais qui a trompé des gens qui veulent bien se laisser tromper, hein. Des juges, des psychiatres, des éducateurs, etc., etc. Pauvre monsieur, vous êtes le coupable ou l'accusé, donc c'est vous qu'on va prendre spécialement en considération par rapport à la victime, et on va rentrer dans tous les jeux que vous faites les uns après les autres, que vous mettez au point les uns après les autres.
Mais les experts, on en parlait tout à l'heure, les experts comme Zaguri et Bronstein avaient pourtant, semble-t-il, si j'en crois ce que j'ai lu, identifié le caractère, le côté comédien de Baudin qui utilise effectivement ses antécédents psychopathologiques pour faire croire qu'il agit sous l'empire de la folie, alors que eux disent pas du tout, il est parfaitement sain d'esprit quand il agit.
Parfaitement, parfaitement. Et encore une fois, ne se laisse tromper que celui qui veut bien être trompé dans une affaire comme celle-là.
Et les avocats de Baudin, semble-t-il, se sont tous récusés les uns après les autres. Il reste un seul avocat?
C'est évident, parce qu'il s'est enfermé dans un système de défense extraordinairement difficile à tenir, puisque il nie l'évidence.
Ouais.
Il nie totalement l'évidence totale.
Alors il va y avoir un conflit.
Être avocat dans ces cas-là, c'est quasiment une mission impossible. On a peur de non pas de se ridiculiser, mais de se de ne jamais être pris au sérieux, plus jamais par le moindre magistrat, la moindre cour d'assises, soutenir de telles thèses. C'est ça qui est... Alors c'est un système de défense extrêmement difficile à mettre en avant parce que on peut même plus demander l'indulgence à partir d'un certain
moment. Bien sûr. Hein. Parce que son avocat semble dire que il n'est pas tenu par les exigences de son client. Il est là pour assurer au mieux, enfin dans les meilleures conditions, la défense de son client, mais il n'est pas obligé d'enfourcher tous ses mensonges ou tous ses fantasmes. Alors,
Serge, vous avez caché, si un avocat en est là, eh bien, c'est l'avenir, la position de Pierre Bodin elle-même qui va être très rapidement détruite. Si on voit la moindre contradiction entre lui-même et son avocat, bah, les jurés vont se dire bah, la cause est entendue. Enfin, c'est fou. Mais c'est pas la faute de l'avocat.
Non,
il faudrait que l'avocat refuse. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison de la rétractation d'un certain nombre d'avocats qui disent non, on peut pas continuer comme ça. C'est impossible de défendre ce monsieur. C'est de son fait à lui, c'est impossible.
Et comment est le tribunal? Quelle est son attitude? Est-ce qu'on sent quelque chose? Est-ce qu'on sent une émotion? Est-ce qu'on sent... Je parle du...
Oui. Chose d'ailleurs tout à fait extraordinaire, il y a un des jurés qui a été installé, qui s'est assis autour de la cour et qui a immédiatement montré une telle émotion, et qui a tellement pleuré qu'elle a été obligée d'être remplacée, bien qu'elle ait été installée préalablement. Et ça, c'était un peu du jamais vu. Je pense qu'être juré dans une affaire comme celle-là, en plus de l'obligation de rester pendant 3 mois à la cour d'assises, etc., va nécessiter un travail d'abord considérable pour pouvoir arriver à démêler tout cela, à se faire une idée de tout exactement, et surtout le contrôle d'émotions et de chagrin et de tristesse énorme, considérable. S'il faut bien voir ça aussi... Aujourd'hui, c'est la charge de chagrin et de tristesse qui pèse sur cette cour d'assises.
Sur tout le monde, d'ailleurs.
Sur tout le monde.
Sur les familles, bien entendu, mais également sur les avocats, sur les jurés.
Je ne saurais d'ailleurs conseiller aux auditeurs de Radio Courtoisie de lire, s'ils peuvent se le procurer, pardon de la concurrence, Serge, mais un interview de 7 pages que... de chez Ben Kesley, ont donné il y a 15 jours à Famille Chrétienne.
Oui, oui. Il paraît qu'il est... Je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît qu'il est extraordinaire. Oui.
Parce que dans une affaire comme ça, si, on ne peut supporter le drame et l'épreuve qu'est ce qu'a subi Jeanne-Marie Kesley qu'en ayant la foi, enfin je le pense. Et il faut absolument transcender cela.
Ouais.
Et les monsieur et Mme Kesley et leurs enfants... dont un frère qui est séminariste, un fils qui est séminariste, l'ont fait, l'ont déjà fait, et devront le refaire, parce que ce ne sont que des êtres humains, et quelquefois le chagrin, la tristesse vous submerge.
Alors, Saint-Just, merci, c'est un témoignage de tout à fait première main, si j'ose dire.
De la bouche du cheval.
Oui, j'ai pas osé dire ça, mais...
J'y repars parce que la cour d'assises est remontée et on continue à lire l'acte d'accusation.
Ah oui, donc ça dure jusqu'à quelle heure, non?
Jusqu'à 7h ce soir.
Ce sont des audiences qui durent très longtemps, donc.
Voilà, l'acte d'accusation sera lu jusqu'à vendredi soir et comporte plus de 400 pages. Et ça n'est que l'acte d'accusation. Le dossier lui-même comporte 40 000 pages. Vous voyez les efforts extraordinaires qu'il faut faire pour mettre en prison ces gens-là en 20 ans ressortir.
Merci beaucoup, Valran.
À bientôt.
Et bon courage.
Vous écoutez Radio Courtoisie et nous étions en direct depuis Strasbourg avec Maître Valran de Saint-Just, un des avocats de cette affaire Bodine que nous avons déjà longuement évoquée.
Je dois dire que c'est quelque chose de totalement insoluble parce que c'est un type qu'on devrait couper en deux ou lui filer une balle dans la nuque, quoi, c'est tout. Et puis, c'est même
non,
pas...
non, Serge, 40 000 pages de procédure, c'est mieux.
Mais la société développe, on voit bien que le système social développe des incapacités ou des dysfonctionnements qui paralysent complètement ce pourquoi il est fait. La société est faite pour rendre supportable la vie entre les membres d'un groupe Et là, visiblement, c'est exactement le contraire de qui se passe, parce que si, je veux pas être sordide, mais il faut imaginer ce que ça va coûter, cette histoire, pour parler clairement. Là. Tout ça pour couper en deux un type qui aurait dû être, qui dans une société normale, aurait dû être liquidé depuis 20 ans. Eh bien, on mobilise des centaines de policiers, des secrétaires, des bureaux, des avocats, des magistrats, des jurés, parce que les 12 jurés, ils vont rester 3 mois, là. Ils peuvent pas travailler pendant ce temps-là.
L'effet remonte à 3 ans, ça. Il faut 3 ans pour produire 40 000 pages de procédure. C'est incroyable, en effet. Voilà. Cette société est folle, il faut le dire tranquillement, mais il faut le dire et le redire.
Voilà, un commentaire, docteur.
Écoutez, je vais passer à cette phrase, on a aboli la peine de mort et jamais on a autant tué. C'est quand même ce contraste extraordinaire. Et cette déclaration de Chirac du 17 janvier, et je ne sais pas pourquoi il a fait ça le jour même de l'application de la loi Veil, le 17 janvier dernier, 2007, en Conseil des ministres, si je ne me trompe pas, c'était un mercredi, il a dit strictement ceci, voyons, je cherche les termes, il parlait du respect de la vie humaine, de l'engagement, voilà, d'un engagement solennel, un attachement, voilà, pardon, le mot exact, attachement solennel de la France, entre guillemets, de la France au respect de la vie humaine, inviolable et sacré en toutes circonstances. Et ça, et il est le président de la République qui a le présidé à la plus sanglante démonstration de l'avortement, puisque ça se chiffre, moi je crois par des dizaines de milliers, pas par des dizaines, mais plus de 10, moi je dirais 10, 12, 10, pas loin de 20 millions de morts, je crois. Donc c'est insensé. On discute, on ratiocine pour, je veux bien que tout homme est respectable, moi je crois aussi que la peine de mort peut donner beaucoup à réfléchir et que parfois rapproche de Dieu très vite, je dirais, c'est une conversion.
Oui, c'est
et comme l'a dit très bien Valrand, Saint-Just tout à l'heure, l'existence de la peine de mort, c'est quand même aussi une pression. Après tout, bien, c'est une justice et miséricorde, bien sûr, mais aussi justice. Et là, c'est véritablement le comble de la justice. On a tué des milliards d'enfants dans le monde, et là, pour un homme qui est vraiment le malheureux, enfin bon, alors, il y a deux poids, deux mesures, là, c'est vraiment le cas de le dire, mais que Jacques Chirac ait le culot de dire ça, c'est d'ailleurs tout à fait dans l'esprit de la charte qui a été refusée par les Français, où on parlait ni de Dieu, bien entendu, ni des tout-petits. Les tout-petits n'ont pas de place, puisque ce ne sont pas des personnes, ils ne sont pas protégés juridiquement. Donc, ils n'ont pas de...
À ce propos qu'il y a eu, il y a quelques jours, à l'ONU à New York, une réunion de... la commission de contrôle en quelque sorte du respect de la condition féminine, et le sujet de cette réunion était l'inégalité des sexes en face du droit à la vie, à la naissance et à la vie. Et ces dames qui étaient réunies, donc, ont conclu que, il fallait en quelque sorte trouver un moyen de ne pas faciliter l'avortement en fonction du sexe de l'enfant, puisqu'on sait qu'il y a des pays comme l'Inde ou la Chine qui font avorter les filles parce qu'ils ne veulent pas de filles. Autrement dit, là, à partir d'une loi qui autorise l'avortement, on arrive à ce paradoxe
invraisemblable.
Qu'il faut établir une discrimination entre, au moment de l'avortement, entre le bébé, entre les bébés, s'ils sont mâles ou femelles. Autrement dit, si c'est un garçon, vous pouvez le zigouiller. Si c'est une fille, il vaut mieux éviter parce que vous allez avoir des ennuis avec.
C'est le contraire en Chine, ça fera une moyenne.
Non, justement, c'est ce qu'ils veulent imposer aux Chinois, c'est d'interdire l'avortement des filles. C'est hallucinant, on est carrément dans l'ordre inversé, l'ordre satanique. C'est tellement aveuglant que je comprends pas que les gens s'en rendent pas compte. Et vous avez les mêmes gens qui disent on est pour l'avortement, on est pour l'égalité des sexes, on est pour l'égalité des races, etc. Mais n'empêche que s'il faut absolument tuer quelqu'un, un fœtus, autant tuer plutôt un garçon qu'une petite fille.
Alors, ce matin, j'écoutais, comme vous peut-être, Europe 1, et j'entendais Jean-Marie Le Pen, et on lui a posé la question, une journaliste, une femme, lui a posé la question de l'avortement. Il a dit, je relève, je crois à peu près ce qui a été dit, je n'en ai pas fait le pivot de ma campagne, c'est ça. Mais il a quand même ajouté qu'il y avait donc il pensait au salaire familial, qu'il a envisagé un référendum pour le respect de la vie, etc. Et là, je trouve vraiment, ça c'est très, je voterai probablement pour Jean-Marie Le Pen, mais j'avoue que j'ai des difficultés parce que s'il avait vraiment, lui qui est si lucide, là manque d'une certaine de courage, lui qui a du courage et de lucidité, brusquement se trouve faible devant ce problème, mais je dirais essentiel. La vie des innocents, la vie des plus petits, là, brusquement, il fléchit. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors que les évêques sont en train de se réveiller, comme je vous dirai dans un moment, si vous me permettez, eh bien là, nos candidats, un qui est assez courageux à ce point de vue-là, c'est Philippe de Villiers. Il est venu dans les manifestations pro-vie. Il était là en chair et en os. Il a fait certaines déclarations. Alors, de ce point de vue-là, je préfère les déclarations de Philippe. Mais le problème... Je vais tout de suite, vous allez voir. Mais le problème, c'est que, c'est ça, il n'a pas voulu se mettre avec Bruno Maigret, enfin avec le...
Rejoindre l'Union Patriotique.
Voilà, il aurait rejoint. Là, il avait tous les crédits possibles. Mais là, ça fait trop bande à part. Et voilà. Et du coup, il n'aura pas tellement de succès. Alors que Le Pen, beaucoup plus, certainement. Alors, c'est ça, qu'il n'y ait pas cette union sacrée pour la vie, ça, j'ai trouvé ça très dommage.
Ceci étant, si vous permettez, il me semble, pour l'avoir lu hier, et je crois que c'est dans le présent,
Jean-Pierre Rondeau.
Mais il me semble que Philippe de Villiers, effectivement, fait ses déclarations dans des réunions où il a son électorat habituel, mais dans son programme, ça a été retiré.
Ça a été retiré du programme.
Oui. Je l'ai lu hier, je crois, dans
le programme. Ah oui. Donc lui aussi, certainement, tout le monde, je dirais, ça effraie tout le monde. Et là, alors c'est quand même le comble. Je dirais, un innocent, par définition, si on le met à mort, à la rigueur, qu'on mette à mort le coupable, hein, on en parlait tout à l'heure, mais alors les innocents, c'est le comble, c'est le monde à l'envers, c'est purement démoniaque. Et justement, si vous me permettez à ce propos, je voudrais parler de deux choses plus spécialement. Une citation de Jean-Paul II et une citation de Jean Madiran, qui, à mon avis, éclaire tout à fait le problème. Je crois, et je l'ai pensé bien avant sa mort, je crois que ce qui restera, en tout cas ce qui pour moi restera de Jean-Paul II, c'est l'expression « culture de mort ». C'est une expression tout à fait étonnante, aussi précise, peut-être aussi imprécise, je le dirai tout de suite, qu'un médecin devant une maladie. On parlerait de syndrome, vous savez, syndromé, qui court avec, c'est-à-dire, c'est un ensemble de signes. Par exemple, les signes de l'insuffisance rénale, les signes de l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, un syndrome paralytique. Mais là, je dirais, il a dit la vérité, mais seulement un peu global, disons. Il n'a pas dit la cause, mais c'est déjà considérable. Je dirais, déjà nommer le mal, c'est considérable. Et culture de mort, ça suppose évidemment une organisation, un conditionnement, un règlement. On voit déjà pointer un certain ordre des choses, je dirais. Mais alors, Jean Madiran, et c'est là aussi, de même que je garderai de Jean-Paul II cette expression, j'aime beaucoup schématiser quelquefois, eh bien, lorsque Jean Madiran mourra, et peut-être il mourra avant moi, je ne sais pas, je suis déjà vieux, mais enfin... Il y a une chose que j'ai toujours admirée chez lui, et depuis le début, une chose, parce que tout le monde aussi, je dirais, tire sa révérence devant, on ne parle pas de l'avortement, et il ne faut surtout pas toucher aux droits de l'homme. Or lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné en quelque sorte la cause même de ce syndrome-là, de culture de mort, et il a parlé des droits de l'homme sans Dieu. Quel courage! Et quelle vérité! Alors là, moi, je trouve que les deux hommes, je l'ai dit, j'ai assisté aux 25 ans de présent, et bon, à un moment j'ai pris la parole et j'ai pu dire ça, que pour moi Jean Madiran, c'était, s'il y avait une chose qui restait de lui, c'était bien la DSD, enfin vous voyez, les droits de l'homme sans Dieu, je ne sais pas comment dire, les DHSD, c'est ça c'est tout à fait remarquable, n'est-ce pas? Et encore, il aurait pu dire très bien, et beaucoup, il aurait été applaudi par beaucoup, même par les gens de 1791, les devoirs de l'homme, les droits de l'homme et aussi les devoirs. Non, il a dit, c'était déjà beaucoup. Non, il a dit les droits de l'homme sans Dieu. Alors là, je crois que les droits de l'homme sans Dieu, c'est véritablement une religion diabolique, bien entendu, démocratique, car on va voter tout à l'heure pour ces régimes, à savoir que c'est l'homme qui va décider du bien et du mal, du vrai et du faux, qui va innocenter le coupable et qui va tuer les innocents. Ce renversement incroyable. Moi, je trouve que là, avec ces deux personnages, on a une très vive lumière de l'ordre satanique auquel on consent finalement, cette démocratie qui finalement est, c'est le peuple qui décide. C'est pas autre chose que le péché originel.
Hein. Oui, mais le malheur, c'est que c'est justement pas le peuple qui décide, ouais. C'est le peuple qui
prend voilà, c'est ça. Par une poignée. La démocratie, c'est cause toujours. Hein. Moi, je suis franc-maçon, je suis marxiste, je prends le pouvoir. Ouais. Et puis maintenant, on va habiller ça démocratiquement, sous le nom de...
Voilà, c'est ça.
Voilà, et c'est un habillage démocratique.
Puisque le docteur nous parlait tout à l'heure assez longuement de Jean-Marie Le Pen, je voudrais simplement indiquer aux auditeurs qu'ils peuvent le retrouver ce soir à 22h35 sur leur petit écran, sur la chaîne Public Sénat. Ce soir même, Jean-Marie Le Pen à 22h35. Et puis, je crois qu'il faut le dire également, en chair et en os, dimanche prochain à 15h30, au Palais des Sports de la Porte de Versailles, métro du même nom. Je répète, ça en vaut la peine, parce que bon, vous savez que Ségolène Royal va terminer sa campagne à Toulouse, c'est dire, son dernier meeting est à Toulouse, le PS considère ça comme un fief. 2500 Toulousains sont allés acclamer Jean-Marie Le Pen. Voilà, alors moi je voudrais dire aux Parisiens et aux habitants de la région parisienne, est-ce que vous allez faire moins bien que Toulouse, ville de gauche? Bon, je pense que le palais des sports de la Porte de Versailles doit craquer.
Mais on a le droit d'entrer même si on n'est pas même si on a un père Bon, ça va, alors ça me rassure.
Voilà. Alors
palais des sports. Excusez-moi, docteur,
je
répète, ça peut intéresser quelques auditeurs. Palais des Sports, dimanche prochain à 15h30, métro, Porte de Versailles avec Jean-Marie Le Pen.
Avec le livret de famille.
D'accord.
Bien. Alors, si vous me permettez, je termine rapidement. Mais au sujet des évêques.
Tu sais pas quand tu la reprends. Hein.
J'ai dit un petit mot sur. J'ai annoncé ça. Si ça, on peut pas ne pas en parler, parce que de fois les évêques étaient pour nous hermétiques. Enfin, aucune coopération. On a fait beau les solliciter.
Vous êtes un ange. Hein,
parce on a des difficultés.
Quand on pense qu'ils vous ont livré aux flics.
Vous étiez mis sous
leur protection et vous leur
les évêques n'ont pas été à la hauteur. Je dirais de nous ça n'a pas beaucoup d'importance, mais surtout des plus petits. C'est-à-dire comment avoir laissé accomplir un massacre qui est sans précédent et qui n'est pas bougé même le petit doigt. Ils ont parlé un peu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont parlé.
Mais enfin voilà. Quoi qu'il en soit, quand il y a eu cette marche du 21 janvier, donc en 2007. 4 évêques avaient donné leur nom au comité d'honneur. Honneur à ces évêques. Et je pense qu'ils ne seront...
4%.
Ça fait 4%, ouais, parce qu'ils sont 100, hein, je crois.
Même n'importe où en France, on doit arriver à trouver plus de 4% d'opposants à l'avortement que chez les évêques. C'est ça le fond du problème.
Mais enfin, voilà, c'est un début. Et puis alors, il faut ajouter un cinquième, et pas des moindres, puis c'est le primat des Gaules, et qui a eu la bonté, je peux le dire, de m'envoyer un mot que j'ai trouvé touchant. Il citait Saint Paul aux Éphésiens 6:20, mais sans dire, et c'est assez curieux de dire Saint Paul 6:20 aux Éphésiens, et disant merci, continuez. Enfin, c'était une carte de vœux, et à la suite de ça, le 10 mars, j'ai pu le rencontrer avec le colonel Richard.
Primat des Gaules, je me permets de traduire, docteur. Hein, primat des Gaules, c'est le sobriquet du cardinal de Lyon.
Cardinal de Lyon, archevêque, c'est ça. Il a 56 ans. Il nous a reçu, ça c'est quand même très aimable de sa part, un petit déjeuner.
Mais attendez,
à son petit déjeuner le matin.
Je suis désolé de vous.
Je vous en prie.
D'abord de vous interrompre et surtout de vous porter la contradiction, mais moi je ne suis pas du tout admiratif de ce qui. Quand vous dites Paul 6:21, il faut que vous alliez chercher dans Paul 6:21 pour voir que c'est bravo, continuez. Je suis content de vous et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, en gros, c'est ça. Alors que, étant donné qu'on est de culture catholique, les catholiques ne connaissent pas la Bible, que les protestants qui connaissent par cœur la Bible, et un protestant vous lui dit Paul 6:21, il sait exactement de quoi vous parlez.
Moi j'ai cru que vous parliez du pape Paul VI, alors vous voyez si ça va mal. Hein.
Non mais vous alors.
Saint Paul aux Éphésiens 6:20.
Relisez Trotsky.
Il a parlé de catholique.
Et vous, savez, vous connaissez le texte de... Moi, je l'ai lu, je le connaissais pas. Enfin, si, je le connaissais, mais sans savoir qui
c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une extraordinaire duplicité, ce genre de truc.
Vous trouvez?
Ah oui.
Ah non.
Mais un évêque, que ton oui soit oui, ton non soit non, il dit, voilà, c'est bien, continuez. Mais il dit pas, en langage codé, comprends-moi, est-ce que je me fais bien comprendre?
Écoutez.
Avec les,
il est en résistance.
Il est en résistance. Non, non.
Sa position n'est certainement pas facile.
Barbarien, non. Non.
Enfin, moi j'avoue que là, vous voyez...
Moi, vous aimez tout le monde, ou alors de toute façon...
Ah.
Je crois surtout que le docteur Dor a une tête plus politique que la vôtre en cette circonstance, en cette espèce, parce qu'il prend le peu que les quatre évêques lui jettent, il prend et il dit merci.
Pendant plus d'une heure et quart.
Et c'est très politique.
Compromis. Nous recevoir, c'est compromettant. Il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, qui nous détestent. Et lui, je dirais, il reçoit des gens...
Un communiqué aux médias
pour dire... Ah, c'était un communiqué, il y a eu un communiqué à présent, à l'homme nouveau, tout ça.
L'épiscopat a fait un communiqué en disant, j'ai reçu le docteur Dor.
Non. Alors, c'est pas
le chef des commandos anti-avorteurs.
De ce qui a pu se dire, c'est surtout, évidemment, le fait même qu'il nous ait reçus. Ça, moi, je trouve qu'il s'est compromis. Si
vous voulez. Ah bon,
vous êtes compromis. Enfin, voilà. Alors, je veux pas. Si, parce qu'il faut quand même que j'annonce, mais. Je suis venu aussi pour ça.
Non.
Annoncer les rendez-vous. Alors, il y a deux rendez-vous. Un rendez-vous le 28 avril, samedi, ne vous trompez pas, samedi. Ce sera entre les deux tours. Donc je crois que tout le monde doit être là. On parlera peut-être de politique avant et après, mais on va prier, évidemment. À 14h30, à Saint-Michel, pour ne pas changer. 14h30, Saint-Michel, samedi 28 avril.
Puis j'ai appris,
venez en rang serré.
Si vous avez des chances de gagner,
il sera au deuxième tour, probablement. Enfin,
j'espère.
Alors, ça c'est ce qu'on va voir. C'est ça. Et alors, le 5 mai, le samedi, ce sera, alors là, non pas à Paris, mais à Bruxelles. Et il y a un quart qui est organisé à Paris, place de la République, à 9h du matin, départ 9h30, après 9h30 le quart est parti. Donc venez, et je vous donne le téléphone. Alors là, je prends ma loupe.
Vous parlez de la manifestation européenne.
Européenne, place Robert Schuman, organisée par les Belges. Et ça, c'est européen, c'est l'Europe chrétienne, l'Europe contre l'avortement. Et les Belges ont beaucoup de difficultés, je crois que... Enfin, pour moi, c'est un devoir et aussi une joie de les retrouver.
Ils ont beaucoup de difficultés, mais ils se mobilisent bien.
Avec vous, c'était assez nombreux, vraiment, les Belges.
Je peux vous dire que le Libre Journal y sera, parce qu'on a déjà conféré avec Serge, et on envoie un reporter, un photographe.
C'est vrai?
Courir derrière un taxi, je dis non, tu courras derrière l'autobus.
Écoutez, admirable. Alors, si vous voulez bien téléphoner pour monter dans le car, et peut-être même deuxième car, le 06 71 84... 04 48. Je répète, le 06 71 84 04 48. Le départ pour Bruxelles le 5 mai. Retour prévu 21h30.
Merci docteur.
Merci à vous.
On vous aime.
Est-ce que je peux enchaîner rapidement, Serge? C'est le Bobineau maintenant.
Oui, on va écouter. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute Goff qui veut enchaîner. Non. Alors on va d'abord passer le Bobineau. Le fameux Bobineau.
Dimanche 13 mai, fête de la courtoisie. À l'espace Charenton, dimanche 13 mai, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux à offrir, des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 13 mai, fête de la courtoisie, espace Charenton, 323 bis rue de Charenton, Paris 12e, métro porte de Charenton. Entrée 15€, entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Pour nous écrire, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Vous vouliez nous faire, Michel Goffman,
Je suis content qu'on ait une musique un peu noble. comme ça, parce que je voulais signaler que le docteur Dor n'était pas seul. Bon, évidemment, il y aura plusieurs millions de Français qui vont voter Le Pen, mais que...
Ça serait drôle que le docteur soit seul, une voix, Le Pen, une voix. Ouais.
Et puis on prend le docteur Dor le lendemain parce qu'il a laissé des traces, des empreintes digitales sur son bulletin de vote.
Des traces d'ADN sur son bulletin de vote.
Oui, la candidature Le Pen connaît beaucoup de ralliements, et notamment, moi, celui qui m'a frappé ces jours-ci, c'est celui de l'Action française, parce que j'ai pas oublié, bon, j'ai beaucoup d'amis à l'Action française, c'est des gens sympathiques, agréables, et donc je me souviens que la dernière fois, l'AF officiellement appelait à voter Chevènement, que ça avait causé une crise extrêmement violente, des départs en grand nombre proportionnellement aux forces de l'Action française, et là, je viens de lire un éditorial très clair, très ferme et très mesuré de Pierre Pugeot dans le dernier numéro de l'Action française, qui explique pourquoi Le Pen, je le cite textuellement, et qui évidemment ne dit pas qu'il est tombé amoureux de Jean-Marie Le Pen personnellement, ça, il n'y a pas de danger, mais qui en vrai patriote, à mon sens, met de côté ses sentiments personnels pour expliquer que c'est l'intérêt national, quoi, tout simplement, ce qui est notre point de vue.
Mon frère républicain, en fait.
Voilà.
Alors moi, je vais apporter aussi une information. Le prince Louis appelle à voter aussi Le Pen. Enfin, je crois. Je suis pas absolument certain à 100%. D'ailleurs, si c'est pas le cas, il peut m'envoyer une lettre que pour démentir. Je publierai le démenti.
Louis d'Orléans.
Malheureusement, hein.
Louis d'Orléans traduisait.
Mets la main dans ta figure, Louis d'Orléans.
Mais quel Louis? Louis de Bourbon.
Bah, Louis de Bourbon, le seul. Donc, si ça n'est pas le cas, si je me trompe en disant qu'il appelle à voter Le Pen, il peut me faire envoyer par son cabinet.
Comme disait Lazareff.
Je rendrai public après le premier tour, puisque je n'ai pas d'émission avant.
Comme disait Lazareff et Serge de Beketch, une information fausse et un démenti, ça fait deux informations.
Je peux parler d'une information fausse peut-être.
Ah oui, si vous voulez.
Bah, c'est le point. Vous avez vu que François-Olivier Gisbert est interrogé par la justice.
En ce moment, je suis abonné à l'Express parce qu'ils offraient un lecteur de DVD.
Mais là, c'était dans le cadre du point.
Bah oui, mais là, le point, ça sera l'année prochaine que je m'abonnerai.
Parce qu'ils avaient fait un article élogieux sur Iskandar Safa, qui est un voyou. Du Moyen-Orient, et en fait, il semblerait
un voyou levantin.
Il semblerait qu'il ait payé pour cet article. Voilà.
Il a payé pour le publier ou il a été payé pour l'écrire?
Qu'il a payé pour que ça soit publié. C'était un article en défense. C'était un type qui avait des ennuis pour pouvoir venir en France, etc. Pour ses papiers.
Il s'appelle Iskandar Safa.
Ouais, Safa, ouais.
Je peux pas croire qu'un gars qui s'appelle Iskandar Safa soit pas. D'une morale rigoureuse. En
fait. Non, mais je parle surtout de France, Olivier Gisbert.
Oui, voilà. Moi, je peux pas croire qu'un news magazine français touche de l'argent
pour faire
publier des informations. Tout ça, c'est fini depuis les emprunts russes. Où, bon, on avait saisi, les bolcheviks avaient publié la liste des journaux français, la liste interminable des journaux français, et les sommes exactes qu'ils avaient touchées pour faire la promotion des emprunts russes. Mais tout ça a été moralisé depuis à fond, et c'est impossible.
C'est impossible. Imaginez qu'un journaliste puisse accepter de l'argent pour... Hein, François ?
Ça me paraît incroyable.
Le lourd passé de journaliste que nous avons, et on en a connu des journalistes.
Tous les journalistes de la presse gastronomique que je connais particulièrement payent leurs additions.
Bien connu, évidemment. Absolument. Ça veut dire qu'il ferait beau voir autrement. Alors, Marc Dugouac, c'est la deuxième fois que vous venez à Radio Courtoisie. Je crois que vous aviez été invité par Michel de Rostolan.
Tout à fait. Hein,
avec en compagnie de Le Pen, d'ailleurs.
Oui, et
c'était... Ce qui fait que vous...
Et c'était déjà, d'ailleurs, une vraie difficulté d'essayer de parler de sagesse dans un monde de passion que je comprends très bien. Mais c'est pas vraiment le même étage. Je comprends la passion. Et
mais ça vous amuse ou ça vous ennuie ce qu'on fait, nous, là, comme ce que vous avez entendu depuis une heure?
Ça m'amuse beaucoup. Et ça m'intéresse, d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde où, comme tout marche sur la tête, la passion est obligée de monter. Et c'est cette montée de la passion qui, moi, m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que, pour moi, nous sommes forcément à l'aube d'une révolution, et le seul sujet aujourd'hui est de savoir si l'intelligence a encore une chance, ou si c'est la violence qu'il fera.
Vous ne croyez pas que l'intelligence, justement, de faire non pas la révolution, mais le demi-tour qui nous ramènera dans le bon sens?
Mais je pense, en effet, que c'est le principe même d'une révolution, de faire un demi-tour qui nous ramène dans le bon sens. Mais la difficulté, c'est que non seulement on ne règle pas les problèmes, mais on ne les aborde pas. C'est-à-dire que
Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais comme je l'ai dit au début de l'émission, je vous ai invité pour parler de votre livre qui est paru chez Max Milo. Et c'est assez drôle parce que Max Milo a fait lui-même un graffiti, un tag sur le nom de son édition, et il se fait appeler Mad Max Milo.
C'est une collection, chez l'éditeur.
Déjà, ça me le rend sympathique. Alors, votre livre s'appelle Voter utile est inutile, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un titre qui me paraît radicalement inadéquat, parce qu'en fait, il n'est pratiquement pas question d'élection ou de votation dans votre livre. Simplement, ce que vous dites, c'est que dans l'état actuel de la situation, de la crise du monde, c'est pas en mettant un petit bout de papier dans l'urne qu'on résoudra les problèmes. C'est ça, en gros.
Bien sûr.
C'est pas la seule chose que
vous dites. Bien sûr. C'est la première lecture, c'est-à-dire que c'est vraiment pas le sujet. Et c'est vrai que un jour j'ai dit voter utile, c'est inutile. On s'est précipité sur ce titre qui me plaît beaucoup moins que le sous-titre Petit manuel de sagesse pour un monde en crise, parce que le vrai sujet c'est d'analyser un peu la crise actuelle.
Et alors, je voudrais vous présenter, excusez-moi, parce que comme disent les trotskistes, depuis que je fréquente Goffman, je prends des tics de Trotsky. D'où parlez-vous? C'est-à-dire, qui êtes-vous et quel titre avez-vous à expliquer aux gens quelles sont les règles de sagesse pour un monde en crise?
Alors, c'est en effet une phrase de journaliste, ça. Qui êtes-vous? C'est pas que dites-vous, c'est qui êtes-vous. C'est-à-dire qu'on est toujours par comparaison à un autre, et on ne s'intéresse peu à ce qui est dit, mais beaucoup plus à qui parle.
Oui, mais je le comprends. C'est tout à fait normal, parce que si le docteur Dor me dit vous devriez prendre du foutrate de Boudiassom, je veux bien l'écouter. Si c'est Jean-Pierre Rondeau qui me dit ça, je lui dirais écoutez, je préfère m'adresser au docteur Dor pour savoir ce qu'il faut prendre pour me soigner, et puis si j'ai un placement à faire, je vous garantis une chose, c'est que j'irai pas voir le docteur Dor pour le faire. Mon ami Jean-Pierre, donc voilà pourquoi je vous demande.
Non, mais en quelques mots, bon, j'ai fait HEC, j'ai été comme beaucoup cadre supérieur, chef d'entreprise. Jean-Louis Borloo était venu me chercher et je suis resté un certain nombre d'années avec lui où je m'occupais d'entreprises en difficulté. Et puis on s'est séparés parce que j'avais pas envie d'être un rameur de fond d'un homme politique. Et donc je me suis retrouvé conseil juridique, puis avocat. Il y a 2 ans, j'ai demandé à être omis du barreau parce que je suis donc consultant, mais je regarde un peu tout ce qui se passe autour de moi. Et je constate qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que on est assez peu concret dans l'étude des problèmes. Donc j'aime bien regarder les problèmes de très loin et de très près. Et je suis pas du tout tenté par le dîner en ville où on parle à mi-chemin de tout pour ne rien dire et perdre son temps.
Ça, c'est la réponse à la question que je vous posais tout à l'heure.
Tout à fait.
Savoir ce que vous pensez de cette émission.
Pas du tout. Pas du tout, parce que on peut parler de choses très concrètes ou on peut aussi prendre les choses de très loin, et je souhaite que l'on fasse les deux.
Alors, donc ce livre est un manuel de sagesse, mais
petit,
oui, mais c'est en tout cas d'abord un diagnostic. Alors, vous dites que le monde est en crise, et comment définissez-vous cette crise? Qu'est-ce qui vous paraît le signe le plus flagrant, le plus fort de la crise?
Le signe le plus flagrant, c'est qu'une société est toujours fondée sur 3 pieds, qui sont l'éducation, la politique et l'économie. Je passe les détails. Or, dans ces 3 sujets, non seulement on ne résout pas les problèmes, mais on ne les aborde pas. Je trouve ça extraordinaire. Au niveau de l'économie, par exemple, tout le monde parle de la croissance, et c'est le nouveau nom qu'on a donné à Dieu. C'est-à-dire que la croissance, elle arrive toujours demain, et ça va permettre de tout financer. Tout le monde le fait. Même Jean-Marie Le Pen a dit sur une télévision, il n'y a pas de progrès social sans croissance. ce qui m'a fait hurler. Mais il est tout à fait clair que cette croissance, c'est, elle doit tomber. On paye tout avec ça. Et la réalité, bien sûr, c'est que cela fait simplement monter l'emprunt, puisque la croissance, c'est la dépense. Si vous vous croyez de droite, vous investissez. Si vous vous croyez de gauche, vous consommez. Mais dans tous les cas, il faut un chéquier. La croissance, c'est la dépense. Si vous construisez une maison, vous faites de la croissance. Mais là, la semaine d'après, vous la démolissez, vous continuez à faire de la croissance.
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez fait deux fois de la croissance, le résultat est nul, mais il paraît qu'on va se partager les fruits.
Mais c'est un risque total.
C'est bien dit.
La position fondamentale des vrais écolos. C'est la croissance zéro, c'est-à-dire vous prêchez pour la croissance zéro.
Non, pas du tout. La croissance, c'est la dépense. Il y a des dépenses intelligentes. Lorsque vous nourrissez un enfant, c'est une dépense intelligente, vous faites de la croissance.
Sauf quand votre enfant va s'appeler Baudin 30 ans plus tard. Là, c'est un mauvais investissement.
Vous faites aussi de la croissance. Dans certains cas, l'investissement peut être
du mal,
pas idéal. Mais toute dépense fait de la croissance. Et lorsque on parle à des économistes, ils me disent, et je l'ai mis dans mon livre, oui, vous avez raison, mais la croissance crée de l'emploi et rapporte de l'argent à l'État, et ce sont les deux seules choses qui intéressent les politiques. Il est vrai, et c'est pour ça que je pense que le vote n'est pas la solution, il faut réfléchir. Alors, je parlais de l'économie, où au niveau de l'économie, la croissance, c'est donc la dépense, et il est fou de penser qu'on peut fonder une économie sur la manne divine. Or, tous les politiques actuellement disent ça. Au niveau de l'éducation, tout est fondé sur la régurgitation des connaissances. On a un système académique du primaire au supérieur où tout est fondé sur la connaissance. Or, ce qui aujourd'hui est valorisable, c'est le discernement. Or, le discernement est quelque chose qui est exclu de l'ensemble du système académique.
C'est pas un accident. Tout est fait à l'heure actuelle et depuis des années pour supprimer le discernement des esprits, le discernement en général. La confusion mentale est considérée comme une chose tout à fait normale. L'amalgame est de rigueur dans tous les domaines de l'expression et de la conversation. Et si vous essayez... j'en ai un très bon exemple, là. Voilà, ce que j'ai dit sur les déclarations de Le Pen, il y a un type qui me dit « Vous êtes un réactif dangereux, et de mauvaise foi, et quand on a des amis comme vous, je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin d'ennemis. » Bon, c'est un monsieur qui n'est pas doué du discernement minimum, c'est-à-dire que quand on parle au deuxième degré, pendant un moment j'agitais la clochette, ça voulait dire je parle au deuxième degré, prière de faire attention à ce que je dis. Non, ils prennent tout au premier, enfin lui en tout cas, il prend tout au premier degré, et alors naturellement ça rend la conversation impossible, parce que immédiatement la réponse, elle vient de la même manière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... On ne vous dit plus maintenant, écoutez, je suis pas d'accord avec vous, on vous dit, mais vous êtes un salaud, mais vous êtes un fumier, mais comment osez-vous dire des choses pareilles? Et ça, c'est parfaitement estampillé par le système, par la justice, par exemple, qui, je prends un exemple très précis, interdit toute attitude révisionniste. On vous dit, vous n'avez pas le droit... Mais de pas le droit de quoi? À quel titre j'ai pas le droit d'avoir une opinion différente ou de faire une recherche sur un domaine historique ou un domaine scientifique? Bon. Non, vous n'avez pas le droit. Quand je dis que je suis créationniste, on me dit vous êtes un fou. Quand je dis que je crois au Saint-Suaire, on me dit vous êtes un dingue. Bon, donc l'absence de discernement fait que toute conversation, tout débat devient impossible. Parce qu'a priori, si vous n'êtes pas d'accord,
c'est le fruit essentiel, c'est le premier du discernement. Il faut écouter tout.
Voilà, c'est le fruit de l'instruction publique. Et d'ailleurs, le jour où on a remplacé le terme instruction publique par le terme éducation nationale, c'était foutu.
Tout à fait, mais je suis désolé, l'éducation privée n'est pas mieux. Actuellement, c'est l'ensemble du système éducatif qui ne s'intéresse pas au discernement, et pour moi, c'est grave parce que c'est vraiment un essentiel. Le troisième pied, c'est le pied politique. Or, la politique est fondée sur la responsabilité, et la responsabilité est fondée sur trois pieds. La compétence, l'engagement et le doute. Or, très sincèrement, ces trois mots, quand on veut essayer de les appliquer, on pense pas directement à la classe politique, Donc, on est dans une vraie difficulté, puisque sur les trois sujets essentiels, on n'aborde pas les problèmes. Alors, j'essaie dans mon livre, parce que c'est bien d'analyser, et je constate que les gens qui se disent de droite, les gens qui se disent de gauche, etc., tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, et la question c'est, mais et alors, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, n'étant pas un homme politique, ne voulant pas être un homme politique, je ne dis surtout pas, mais il n'y a qu'à, Faucon, c'est très simple, votez pour moi, et tout est résolu. Je sais que nous avons devant nous de la sueur, des larmes et du sang, probablement, qu'il va falloir faire énormément d'efforts, mais j'essaie de partir de la philosophie, puis j'attaque ces trois pieds en expliquant combien on marche sur la tête, et je repars en philosophie. Au début, il me paraît important de parler de l'harmonie, qui est un mot que j'aime beaucoup, et qui d'ailleurs est pour moi une des différences entre ce qu'on appelle la droite et ce qu'on appelle la gauche. J'ai découvert assez récemment, en fait, moi j'ai passé ma vie à savoir si j'étais de droite ou de gauche, et j'en avais marre d'ailleurs de pas y arriver. J'en arrivais à cette phrase, la droite et la gauche sont deux parties de moi-même qui se dissocient en de simplisme lorsque je suis fatigué. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'il y avait deux choses importantes dans la vie pour moi. C'est le mouvement et l'harmonie. Et il y a deux erreurs à éviter, du moins que je veux éviter. C'est l'harmonie sans le mouvement, c'est-à-dire la mort. Ce que les gens qui se disent de gauche appellent la droite. Et l'autre erreur à éviter, c'est le bordel, c'est le mouvement sans l'harmonie, ce que les gens qui se disent de droite appellent la gauche. Puisque vous avez remarqué comme moi qu'il n'y a jamais un homme qui se dit de droite et un homme qui se dit de gauche qui donne la même une définition commune. Donc, tout ça, ce sont des mots qui ne m'intéressent pas. Il m'intéresse beaucoup plus de chercher l'harmonie entre être, agir et échanger, entre le cerveau, l'esprit, la parole et l'action. Et voir aussi bien au niveau social, alors je vais pas prendre les différentes parties du livre, mais après je repars dans une autre forme d'harmonie ou de recherche d'harmonie qui est l'équilibre entre le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport à Dieu ou le rapport à l'illimité qui revient actuellement, Dieu merci, qui a été complètement exclu pendant le XXe siècle. Mais c'est vrai que Dieu revient un peu en désordre actuellement, ça revient un peu par tous les bouts, mais il y a cette autre harmonie.
En ce moment, pardon de vous couper, mais j'ai toujours présent à l'esprit cette phrase, Dieu nous a créé à son image et on le lui rend bien. Parce que quand on voit ce que les gens font de Dieu, alors que c'est quand même extrêmement simple, Dieu c'est l'amour, point à la ligne, il n'y a pas la peine de chercher autre chose.
Comment ? Et vérité.
C'est la même chose.
Ça me Voltaire, ça me Serge, est-ce que vous me permettez d'agresser au moins une fois votre invité ?
Oui, mais attendez, je voudrais terminer mon intervention. Et quand on voit ce que les différentes peuplades de cette pauvre planète se fabriquent comme Dieu, on se dit qu'il ferait mieux de faire, je ne sais pas moi, de la broderie ou du bricolage, parce que c'est terrifiant les dieux qu'ils nous proposent, à peu près universellement. Le dieu des musulmans, ce de type qui
terrible.
Fait toi exploser au milieu des synagogues.
Bon, alors, je crois que toutes les religions ont un peu de tout. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a aussi bien dans l'islam que dans la chrétienté, que dans une partie tout à fait intéressante et une autre que je n'apprécie pas du tout.
Alors, je suis moins avancé que vous, j'ai encore rien trouvé ailleurs que chez moi. Mais je continue à chercher.
Alors, oui, moi, je trouve que ce qui est dit, il peut y avoir des idées semblables, exprimées avec des mots différents. Et le respect, j'ai appris assez récemment d'ailleurs, j'ai pris conscience plus exactement que ce mot respect qui vient de respectare, c'est en fait regarder sous différents angles. Et j'aime bien cette définition du respect, de regarder sous différents angles, mais avec discernement et en effet un esprit critique très fort et très concret.
Alors on n'est pas là pour faire un débat, mais
l'incarnation, on peut pas.
Allez-y.
J'agresse tout le monde puisque je change de sujet déjà. Donc j'agresse l'animateur. Je voulais aussi demander à Marc Dugois, politesse, mais lui demander quand même s'il n'a pas l'impression d'enfoncer les portes ouvertes en tant qu'économiste, quand il entend, comme la plupart de nos auditeurs aujourd'hui, que le sieur Forgeard a touché 8,5 millions d'euros en récompense pour avoir foutu par terre ou à peu près EADS, quand il voit que la France a 2000 milliards de dettes publiques. On a l'impression, enfin les gens simples comme moi ont l'impression, quand ils entendent ces chiffres, de vivre dans un monde tellement fou qu'ils peuvent vous demander si vous n'enfoncez pas des portes ouvertes et s'il ne faut pas appeler l'asile plutôt que des économistes.
Alors, il faut, me semble-t-il, d'abord comprendre. Vous prenez un cas qui est évidemment absolument scandaleux, mais souvenez-vous qu'il y a 50 ans, 60 ans, il y avait trois groupes qui ne se mettaient pas beaucoup, mais qui se contrebalançaient et qui en tout cas ne se mélangeaient pas. Vous aviez les hauts fonctionnaires, vous aviez les capitaines d'industrie et vous aviez les politiques. Je veux dire, jamais un Peugeot, un Vindel ou un Michelin ne se retrouvait ni hauts fonctionnaires ni politiques. Jamais un haut fonctionnaire ne se trouvait politique, etc. Aujourd'hui, ce sont les mêmes. Il n'y a plus qu'un seul groupe. Vous prenez n'importe quel patron d'une grosse entreprise et vous dites, mais attendez, je me trompe, il n'est pas détaché de la Cour des comptes. Ah ben si, mais c'est pas lui qui était chef de cabinet de Fabius ou de... d'un autre, parce que vraiment, c'est exactement la même chose d'un côté ou de l'autre. Et on s'aperçoit que ce sont les mêmes. Et ce qui fait que, comme ils sont tous au conseil d'administration les uns des autres, ils se fabriquent évidemment des parachutes en or, puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir. C'est-à-dire, je crois qu'il est important à la fois d'analyser concrètement les problèmes, et à la fois de prendre de la hauteur pour aller dans des axes de direction. Et la première chose à faire, pour moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est d'abord se réveiller et prendre conscience. Et il n'y a pas de solution toute faite. La solution va être très très dure. Il faut travailler plus, il faut jouir moins. C'est exactement l'inverse de ce que l'on vend au peuple.
Faut arrêter de jouir sans entrave. Alors comme disait en 68, nos camarades qui d'ailleurs s'en sont parmi.
Il est bien clair qu'il faut réapprendre le deuil. Aujourd'hui, grâce à la croissance, on peut tout faire. On va vivre mieux, ça va aller bien, on va se donner à tout le monde, on fait venir la terre entière chez nous, etc., etc. Moi, je ne suis contre rien, à la condition de savoir ce qu'on annule chaque fois qu'on donne quelque chose. Et cette saloperie de croissance, excusez-moi d'être un peu grossier, c'est qu'on a rentré dans la tête des gens que c'est plus la peine de faire un deuil.
Vous n'êtes pas grossier, vous êtes anarchiste. La croissance zéro, c'est un mot d'ordre anarchiste.
Alors, attendez, croissance zéro, c'est encore un mot, c'est une phrase toute faite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'a même aucun sens, puisque la croissance, c'est la dépense. La dépense zéro, ça n'existe pas. L'argent, mais alors, là encore, je veux dire, il faut redonner leur sens. Je prends un exemple au niveau de l'argent, parce que ça me paraît extrêmement important, parce que là encore, on enseigne dans toutes les universités des choses fausses. Des choses fausses, qu'est-ce qu'on dit dans toutes les universités? On dit, au début, il y avait le troc, l'échange des biens et des services, un jour c'est devenu trop compliqué, on a inventé l'argent. Parfait, à part que c'est faux. Et que c'est trop court. Avant l'échange des biens et des services, il y a une raison d'être ensemble, c'est-à-dire que le groupe se forme pour quelque chose, pour se multiplier, pour voyager, pour se défendre, je ne sais pas, mais il y a une raison d'être ensemble, un lien social. Et à l'intérieur de ce lien social, chacun est prié de se donner à fond. C'est le don de soi et l'accueil de l'autre, c'est-à-dire l'échange des êtres. Il y a au début un lien social et l'échange des êtres. Un jour, alors cela se traduit, oui, par l'échange des biens et des services dont on se moque.
Comme Goffman vous a dit que vous étiez anarchiste, moi je vais vous dire ce que vous dites là, c'est du fascisme pur. Hein.
Mais
ça me plaît bien d'ailleurs.
Des communistes, mais voilà.
Mais les chrétiens même, non
oui, en plus, tout ce qu'on veut.
Là,
je termine juste là-dessus. Ça change tout au niveau de l'argent. Car l'argent est en effet, un jour c'est devenu trop compliqué, on a inventé l'argent. Mais c'est le substitut du lien social, et c'est pour ça que le pouvoir a le droit de battre monnaie, parce qu'il est garant, et c'est le substitut de l'homme.
Oui, mais là,
si je peux me permettre... Et je termine simplement pour une preuve, c'est que Gainsbourg a créé des tas de problèmes en brûlant un billet de 500 francs, alors qu'il aurait brûlé quelque chose qu'il aurait acheté 500 francs 10 minutes avant, tout le monde s'en foutait. Pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, il se brûlait lui-même et il nous brûlait nous-mêmes. Or, tant qu'on n'aura pas compris que l'argent est le substitut de l'homme et du lien social dont le pouvoir est garant, eh bien, on ne peut pas construire une économie qui tient la route. Voilà. Excusez-moi,
je
parle trop.
Pas du tout.
C'est ric-rac.
C'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. C'est pour parler. Et d'ailleurs, on arrive à 19h30, si je ne me trompe.
Oui, et Monsieur Dugoix nous laisse une minute.
Pliure de l'émission, à vous.
Une minute pour plier. Des messages qu'on commentera après. Hein, on n'aura pas le temps de les commenter tout de suite. Le docteur Dehors, qui se dit catholique, veut voter pour quelqu'un qui n'est même pas marié religieusement. C'est un comble de vouloir mettre à la tête de la France un président pareil. Alors, on dira tout à l'heure ce qu'il en est, parce que bien entendu, c'est faux. Le Front National ne pourra rien faire aux élections. Elles seront truquées. Par exemple, dans la Sarthe, il y a 600 bureaux de vote et le Front National ne pourra mettre que 30 observateurs. Un troisième auditeur nous dit « Il est intéressant de savoir que Ségolène Royal fera son dernier meeting à Toulouse, car Toulouse signifie perdre en anglais. »
Ah, très drôle ça, très bien.
Signifie
perdre en anglais.
Toulouse. Toulouse. I was born to lose. Le blanc qui chante « I was born to lose ». Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 21h30 en direct, vous pourrez suivre le Libre Journal de la Nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau. Et tout de suite, voici la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beckett, toujours en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, bonne soirée, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 11 avril 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Voilà, non, mais il faut d'abord donner la parole aux spécialistes parce que il y a une question très grave qui a été posée. Comment peut-on être catholique et voter pour Le Pen, qui n'est même pas marié religieusement. Alors je me tourne vers mon camarade Goffman, qui est connu pour sa pertinence en matière religieuse.
De religion.
Voilà, de mariage et de religion. Alors, qu'est-ce que
Jean-Marie Le Pen a rappelé lui-même en personne, si j'ose dire, il y a quelques jours sur les médias, qu'il était marié religieusement, lui, contrairement à certaines femmes royales qui vivent dans le péché et dont les enfants, a-t-il dit d'ailleurs un peu plus tôt, sont des bâtards. Et pourquoi on ne le répéterait pas, puisque c'est vrai?
Oh, bah, c'est aimable, c'est bien ça.
Mais c'est un nom, c'est le nom propre qui s'applique aux enfants nés hors du mariage.
Ah bon? Pour moi, je ne fréquente pas des gens comme ça, donc...
Ne votez pas Royal. C'est dommage, notre ami Rondeau est en train de feuilleter Charlie Hebdo, bien entendu, qui est notre Bible. Et alors, il y a une interview de deux pages dans Charlie Hebdo de Ségolène Royal, et elle a adopté pour l'occasion un chignon qui lui donne un air d'Adam en train de servir le thé, les petits gâteaux à ses amis le dimanche après la messe, qui est absolument délicieux, je trouve, surtout pour parler à Charlie Hebdo.
Le thé est délicieux, ou le chignon?
Le chignon est délicieux, mais là, c'est la première fois qu'elle me trouble un peu. Parce qu'elle me fait horreur en général, surtout sa voix très sèle. Vous savez qu'elle travaille sa voix. C'est dans Faites et Documents.
C'est pas dommage.
Mais c'est un peu tard. Elle s'y prend un peu tard, mais elle a une voix de très sèle épouvantable.
Du 14 juillet, bien entendu.
Regardez la une de Charlie Hebdo. N'achetez pas ce torchon, bien entendu. On le fait pour vous et on en extrait tout ce qui est intéressant. Mais regardez la une de Charlie Hebdo d'aujourd'hui. Elle est délicieuse avec son chignon.
En train de servir le thé.
J'ai toujours un faible pour les dadames qui servent le thé.
Bien. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comment ?
Je peux dire un mot ?
Oui, Alain Pascal, vous pouvez dire un mot.
Bonsoir. Oui, je voudrais juste vous dire que les enfants sont naturels.
Oui.
Ce sont des enfants naturels.
C'est écolo même.
Et que de mon point de vue, je pense que Madame Royal est sénégalaise parce que elle est née au Sénégal et nous appliquons en France désormais le droit du sol.
Absolument.
Donc nous avons une candidate sénégalaise, je pense,
sur un plan juridique. Une concubine sénégalaise.
Et flasque.
Très bien.
Bien. Alors cette chose passionnante étant exposée,
on lance notre robot.
Je me tourne vers François Robot, qui est notre chroniqueur gastronomique, qui d'ailleurs remporte un grand succès. Je veux dire, les auditeurs sont ils disent c'est le seul professionnel de cette émission.
Oh, ils sont durs.
Je remercie les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous précisez que la cuisine a également des prélats, parce que du côté de Lyon, à Collonges au Mont d'Or, existe un cuisinier d'anthologie qui s'appelle Paul Bocuse, et que depuis de nombreuses années, les Lyonnais ont surnommé le primat des gueules.
C'est
et
pas
quelques
mal.
Quelques autres en ont rajouté et ont trouvé qu'il était le pape de la cuisine mondiale.
Alors ça, c'est peut-être beaucoup.
C'est peut-être beaucoup pour un seul homme. Voilà.
Le primat des gueules, c'est bien.
Le primat des gueules, oui, parce que c'est...
Le primat.
À l'époque du cardinal Gerlier, qui était primat des Gaules.
Ça n'existe plus, le titre de primat des Gaules, je vous le signale. C'est dommage, c'était beau, mais ça a été supprimé. Et donc, je pense qu'on ne doit pas manger beaucoup d'algues chez le primat des Gaules.
Eh bien non, c'est en Bretagne qu'on mange des algues, et je vais vous parler rapidement d'une petite épicerie qui vient de s'installer. Épicerie Marine, c'est un jeune garçon qui s'appelle Bertrand Ferchaud. Ce n'est pas l'aîné de la famille. Il est né à Pouzdauges, en Vendée. Et dans ce joli village, oui, très joli village, et une très belle région, avec beaucoup de très bonnes choses, notamment du beurre exceptionnel, grande qualité de beurre. Donc, dans ce petit village de Pouzdauges, j'espère que je le prononce bien, il y avait un épicier qui avait fait le tour du monde.
J'y serai dans une semaine, je signale. Enfin, tout à côté de Pouzdauges.
Oui, mais alors là l'épicerie dont je vous parle est à Paris.
Bah oui, bien sûr,
et
on se croise.
Le jeune épicier... C'est une discipline en voie de disparition, puisque maintenant tout est raflé par les grandes surfaces. On y trouve tout, n'importe quoi, et malheureusement, beaucoup de choses pas toujours très bonnes. Ça, on en parlera un jour, puisqu'on va faire quelques essais, si on résiste à ces essais.
Essais
atomiques, d'ailleurs, mais bon, soyons prudents. Donc, un marin qui avait beaucoup bourlingué a terminé sa brillante carrière de marin de la marine marchande en ouvrant une petite épicerie à Pouzauges qui s'appelait l'Alouette. Or, ce jeune garçon a ouvert rue d'Auteuil. On reste non pas dans les quartiers chics, on le fait pas exprès, mais il a trouvé un fonds de commerce qui, tout compte fait, était intéressant. Avant, c'était un petit restaurant où il y avait à peine une dizaine de places. Et il a décidé de se consacrer à vendre des algues marines. Alors, Serge, savez-vous combien il y a de variétés d'algues? Et on va poser la question à notre ami Goffman.
Oui, je préfère que Goffman réponde.
Des variétés d'algues, ben, je ne le sais pas, alors je réponds n'importe quoi.
Certain nombre.
Moi,
je le
sais. Un certain nombre, excellente réponse de notre ami Rondeau.
Plusieurs milliers, bien sûr.
Oui, non, il y a 88 000 espèces d'algues, mais les grandes variétés sont les brunes, les rouges, les vertes et le...
Et les pas mûres.
Depuis, et oui, les pas mûres. Ça fait 3 milliards d'années que l'homme se nourrit indirectement quand il avait la chance d'habiter au bord de la mer.
Ou d'un restaurant japonais.
Oui, ça, les Japonais sont les principaux consommateurs. Nous n'arrivons par la consommation qu'en 7e position. Alors, ces légumes de la mer sont les premiers végétaux apparus après les débuts de la vie et nous en dégustons malheureusement sans le savoir dans de nombreux produits de l'agroalimentaire car ils servent d'épaississants, d'émulsifiants. Tous ces produits qui sont des produits naturels autorisés ont des fois, on en reparlera une autre fois, des effets secondaires assez redoutables pour certains individus. On connaît tous les allergies. On est malheureusement allergique à beaucoup de choses. On est déjà allergique à nos voisins, ce qui est peu recommandable, mais on est également allergique à l'histamine qui est contenue dans le thon, dans les fraises, même dans le homard, dans les langoustes, dans les poissons crus. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a énormément de poissons crus. C'est une denrée très à la mode, très agréable, parce qu'elle contient cette nourriture des oméga 3, des graisses insaturées, très bon pour tous les problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas une émission médicale, hein, je vous rassure tout de suite. On est toujours dans la rubrique gastronomie. Et je reviens aux algues de ce jeune épicier de l'épicerie qui s'appelle l'Alouette. Et lui, il vend comme nos amis japonais en raffole. Ils vendent des vertes qui s'appellent des cheveux de la mer, comme la laitue de mer. Je ne sais pas, vous avez déjà goûté oui. Des laitues de mer. C'est assez délicieux, d'ailleurs.
Je suis algotropique.
Oui.
J'aime bien les algues.
Et au régime, en plus.
Alors, un petit tour de main, si vous en achetez, il faut les hacher finement pour les cuire et découvrir leur saveur ferrugineuse.
Comme l'eau du même nom,
c'est sûr. Là, vous l'avez.
Autre spécialité de Serge de Becquet.
Hommage, on va faire comme Drucker, notre ami Bourville, si tu nous entends, pour que on retrouve un goût qui soit comparable aux épinards. Et c'est vrai.
Bah, autant bouffer des épinards.
Manger directement des épinards.
Ça, c'est comme les gens qui disent j'aime bien ce beurre parce qu'il a un goût de noisette. Bah, bouffer des noisettes, mon vieux, ne pompez pas l'air.
Pas tort, Serge. D'autant plus que bon, il y a toute une gamme de prix. Ces algues sont relativement accessibles, mais on ne va pas dire que c'est vraiment bon marché. Cela dit, c'est des petits pots qui sont vendus soit au naturel, soit préparés avec des rillettes de maquereau, des rillettes de thon. Il y a également toute une sélection de sardines à l'huile, millésimées. Alors, ne tombez pas dans le piège des sardines millésimées, parce que chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez empoisonner une famille entière en les laissant vieillir. Par contre, en boutique, il y a une date de péremption. Il faut impérativement la respecter, sinon on a des ennuis avec la répression des fraudes. Et également, on consomme des... Ça vous fait rire,
Serge? Vous pouvez empoisonner toute votre famille.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai à la maison, et je vous ferai une dégustation un jour, des sardines qui ont 20 ans. Ce n'est pas dangereux. Malheureusement, je ne...
On ne le saura qu'après.
Et pourquoi nous?
Non, pas vous. Non, il faut tout goûter.
En fait, vous faites goûter votre famille, si j'ai bien compris.
Oui, voilà.
Voilà. Mais il y a aussi des restaurants qui vendent hors de prix des sardines millésimées, en oubliant tout simplement qu'il y a une date de péremption à ne pas dépasser. En général, ça ne dépasse pas 7 à 8 ans. Ça, c'est pour les sardines à l'huile.
Mais là, les algues, vous nous dites 3 milliards d'années.
Oui, 3 milliards d'années, mais elles se sont renouvelées. Vous savez que, heureusement...
Mais c'est un blasphème.
Dans les océans... Et...
Oui, en plus. Mais ça, j'ai pas voulu rentrer dans le débat, oui. Parce que...
Non, pourquoi le blasphème?
Parce que le monde a été créé il y a 6000 ans.
Il y a 6000 ans, pardon.
En gros, quoi.
Et vous feriez mieux de vous le tenir pour dit à la fin.
Je le note tout de suite, attendez. Ça ne se reproduira plus, je vous le jure. Voilà. Je voulais simplement vous donner les vertus peu connues des algues. Elles sont pauvres en lipides, riches en protéines, et il y en a même qui ont une quantité importante de sels minéraux assimilables, 3 à 4 fois plus que le lait. Donc manger des algues, laisser tomber le lait.
Oui, ça c'est bon. En ce qui me concerne, c'est fait depuis longtemps d'avoir laissé tomber le lait.
Du chlore, du cuivre, du fer, c'est des vraies mines. Hein,
depuis mon dernier biberon.
Manganèse, elles contiennent également glucides et cellulose, et elles ont un effet très positif sur la pathologie digestive fonctionnelle.
Tiens.
C'est-à-dire que ça aide
Biofrancis.
Oui.
Ça fait
mieux que le bifidus actif de nos amis de chez Gervais Danone. Je vais quand même vous donner l'adresse de cette petite épicerie marine. Ça va ravir beaucoup de gens.
Et commencer par Marine elle-même.
Oui, mais écoutez, je donne cette adresse aussi pour Marine. C'est le temps de
elle aussi, elle est au régime, il me semble.
Il y a du beurre, là.
Dans les épinards, oui, normalement, mais
j'ai cru qu'ils vendaient du beurre.
On pas, non, ils ne vendent pas de beurre. Ils n'en ont pas encore. On vend également des vinaigres parfumés aux algues. Et cette épicerie, c'est l'Alouette. Elle fait chanter les algues. 15 rue d'Auteuil, à Paris, dans le 16e. Le téléphone 01 45 20 68 07.
Comment dire en confidence qu'on était allé avec Jean Ferré déjeuner dans le restaurant qui occupait cette adresse avant l'installation de monsieur
Ferchaud,
et c'est pas dommage que c'est été remplacé par une épicerie d'algues.
Ah, c'est coquet, c'est charmant, ouais, c'est bleu, il y a des petits bateaux, et ce garçon...
Je suis sûr que ça fait beaucoup moins de mal que la cuisine qui était servie avant.
Le chantre de l'algue.
On redonne son adresse et son téléphone,
oui,
alors.
Oui, l'Alouette, c'est le nom de l'épicerie de monsieur Ferchaud, 15 rue d'Auteuil, 75-016 Paris. Le téléphone, 01 45 20 68 07. Il y a un site, si vous voulez consulter ce site avant de vous déplacer, www.lalouette.com.
Merci François. Un autre conseil, un autre
non pas pour l'instant. La semaine prochaine.
Cette semaine, on se contentera d'algues.
Oui.
Les auditeurs ont raison, c'est un
je
très
sens que les enfants de Royaumont vont manger beaucoup d'algues dans les
ils en veulent pas.
Parce que je crois que le père
merci
a
beaucoup.
Noté
que des algues marines. Marine. Pour l'instant, les algues.
Si vous connaissiez Jean-Pierre Rondeau, si vous connaissiez mieux l'œuvre de Patrick Besson, vous sauriez que les enfants de Royaumont ne mangent que de la langouste.
Oui, on racontera. Tiens, ouais.
Oui, on va raconter ça tout à l'heure.
On racontera pourquoi.
Vous me donnerez l'adresse, les langoustes m'intéressent.
Oui, enfin, il faut faire vite parce qu'il y a quand même quelques années qu'elles vous ont été livrées, celles-là. Bien, c'est vous qui voulez parler, Goffman, vous voulez parler. Ah, c'est un bon journal, le Libre Journal, c'est un bon journal.
Qu'en pensez-vous, Serge
Debecquetch,
de cet excellent journal? Nous aussi, on a un site, ou du moins, il y a des amis du Libre Journal qui ont créé un site pour nous aider, parce qu'ils nous aiment bien, je crois que c'est la seule explication. Ouais. Ça m'étonnerait que vous leur passiez de bien grasses enveloppes. Ben, c'est ça qui est agréable dans notre ghetto, hein, c'est que on n'est pas payé, mais on rigole, et surtout, on a vraiment des amis, désintéressés, sincères, qui nous aident pour la peau, pour... parce qu'ils nous aiment bien. Donc ce site, il s'appelle francecourtoise.info et on peut y consulter donc notre collection sur plusieurs années. Le Libre Journal, le prochain, je ne vais pas vous en dire grand-chose puisqu'il est en préparation. Nous sommes à l'imprimerie demain matin à pas d'heure pour préparer donc le numéro 405. Donc tout ce que je vous en dirai, tout ce que j'en sais d'ailleurs, c'est que ce sera un spécial Sarko. C'est pas réservé à la grande presse de faire des spéciales Sarko en ce moment, mais le nôtre.
Même des spéciaux.
Voilà. Mais le nôtre va peut-être être un tout petit peu plus critique, disons un tout petit peu plus méchant. Peut-être que nous avons un peu Sarko dans le collimateur pour différentes raisons que vous découvrirez sur plusieurs pages dans ce Libre Journal numéro 405.
C'est très très simple, c'est parce qu'il n'est pas complètement.
C'est un mauvais français.
Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'aime pas. Moi,
voilà.
Autrement.
Voilà. Alors, les élections nous entraînent sur la voie de l'actualité, puisque on va traiter également l'affaire de ce premier.
Attendez, vous permettez, excusez-moi. Non, c'est pour la phrase que je viens de prononcer avant.
Ah oui. Qu'on comprenne que c'est du deuxième degré.
Deuxième degré, voilà.
Et qu'on n'abasourdisse pas nos téléphonistes bénévoles de questions ineptes. Donc, l'affaire de la foire du trône, voilà, ce qui était si longtemps une fête de famille où on a tous de si bons souvenirs.
Bah, c'est la foire au pain d'épices.
Ouais, c'est devenu la foire aux jeunes en difficulté qui cause surtout des difficultés aux autres et qui tue des flics. Je crois que l'affaire Bodin ou Bodaigne dont on a longuement parlé tout à l'heure, vous y reviendrez, Serge, dans votre éditorial. Donc, je n'en dis pas plus. Si je rappelle quand même qu'on bénéficie de la collaboration de François Brignot, qui est non seulement un monument de la presse patriotique, mais qui a chaque année un peu plus de talent, si c'est possible. La collaboration du Marquis de Meta, de Marie-Claude Monchaud, d'Anne-Merlin Chazelas, de toute une pléiade, hein, de brillants collaborateurs qui ne font pas que commenter l'actualité. Donc si je vous ai vendu, messieurs, dames, très beau, très cher, ce numéro 405, vous le commandez pour 5 euros ou de préférence exige la directrice un carnet de timbres dont elle a besoin pour relancer les voyous qui ne se réabonnent pas assez vite. Là, non seulement c'est du deuxième degré,
oui,
mais c'est une antiphrase, puisque un expert en diffusion de presse vous a dit, Serge, après avoir examiné vos comptes, que le Libre Journal avait le meilleur taux de réabonnement qu'il ait jamais vu, exact, ce qui incite à penser que la plupart des lecteurs ne doivent pas être trop mécontents, sinon intoxiqués par les poisons délicieux et parfumé que nous diffusons comme dans ce Libre Journal.
Comme les sardines de François.
Vous allez me demander quel est le prix de l'abonnement, sans doute. Eh bien, bien, sachez-le, Serge de Bekech, pour s'abonner un an à ce décadaire, donc qui paraît à peu près 3 fois par mois, il en coûte 110 euros, ce qui me paraît raisonnable. Et si vous voulez savoir à quel ordre l'échec doit être établi, eh bien, je vous révélerai que c'est à l'ordre de SDB, 4 Place Francis, 75-010, Paris. Je vous demande encore 10 secondes, puisque nous ne revenons pas la semaine prochaine, pour donner un rendez-vous personnel aux auditeurs. Le 1er mai prochain, à 12h, je signerai mes œuvres, et plus particulièrement les derniers exemplaires disponibles de mon roman chez Flammarion, Cœur de cuir, qui a été pilonné en même temps que Jean Dutour, ce qui m'a quand même puissamment... Les Italiens... Ça m'a remonté le moral quand on m'a dit « Vous êtes repilonnés, les Italiens qui ont acheté Flammarion et qui ont foutu dehors Jean-Charles, d'ailleurs. »
Quel accent ils ont, vos Italiens?
Excusez-moi, c'est monsieur trompé d'accent. Donc, ils ont resté Flammarion, ils ont foutu dehors Jean-Charles ou Henri Charles ou Charles-Henri Flammarion pour commencer. Ils ont foutu dehors. Après, ils m'ont dit, vous êtes pilonnaire. J'ai commencé à pleurer. Ils m'ont dit, et puis Jean Dutour aussi. Alors là, j'ai commencé à rire et à me faire un peu de soucis pour leurs affaires. Bref, la Librairie Nationale a racheté un petit stock de ces livres avant qu'ils soient pilonnés. Donc, je les dédicace avec la deuxième édition de mon autre chef-d'œuvre, Batafam tous les jours. C'est le 1er mai de 12 à 16 heures à la Librairie Nationale, qui se trouve au miracle à 2 pas de la place de l'Opéra, où se dispersera donc le 1er mai du Front National. C'est plus exactement 12 rue de la Sourdière, Paris 1er, la Librairie Nationale.
Quand on parle, je signale que...
Ah oui, les messages, les annonces, c'est à vous, Serge.
Non, mais je veux juste lire le message de l'imposteur. Qu'est-ce que j'en ai fait, monsieur? Ben voilà, Action sociale et populaire.
L'imposteur, vous voulez dire? Là, je fais ma cour au Père Aguirre, qui a pas trop aimé Evan semble la création tout à l'heure.
Non.
Ah si, il était très content.
Mais il est évolutionniste, le Père Aguirre.
Ah, il est évolutionniste, mais c'est grave. Il faut le brûler. Alors, c'est le bûcher, Père Aguirre. Serge vous emmène sur le bûcher, mais comme vous êtes sage, vous n'aurez pas la question extraordinaire à voir. Le marquis qui lui ricane et demande à quelle heure a été la création, lui, c'est la question ordinaire et extraordinaire avant.
Alors, le pasteur Blanchard, vous connaissez? Vous lui parlez?
Je l'ai rencontré une fois ici.
Ah bon? Pas trop, parce que il est protestant, hein?
Oui, alors?
Ah ben...
Et il vous fait les poches?
Alors, oui, il vous fait semblant de vous parler du bon Dieu, puis il vous fait les poches. Vous ne connaissez pas les pasteurs.
Non, j'ai rien dans les poches.
Justement,
le Père Aguirre se ricane cyniquement parce qu'il est venu faire les poches des auditeurs.
Donc il invite ses amis protestants et les amis de l'Action sociale populaire à se joindre au carré des protestants qui participera le 1er mai prochain en présence de Jeannie Le Pen au grand défilé célébrant la victoire.
Jeannie Le Pen qui est un peu orthodoxe. Non,
non, je crois
que
non, elle est protestante, Jeannie.
Et c'est une grecque protestante, c'est intéressant.
Ouais, ça arrive. Bon. C'est ça, oui, oui, oui.
Personne
oui.
N'est parfait.
Il y a même des Français orthodoxes.
Oui.
Alors donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas...
J'ai un très bon ami hollandais qui est prêtre, orthodoxe.
Et moi, j'avais un ami qui avait été blessé pendant la guerre.
Ah bon? Il est méchant. Il se moque de moi. Chers auditeurs, téléphonez, ça ne peut plus durer.
Donc voilà, 1er mai, place du station de métro Palais-Royal à 9h précise. Si vous êtes protestant.
Bon, le carré, ça veut dire qu'ils sont 4, quoi?
Oh non,
arrêtez. Ils forment le carré à 4.
Arrêtez. Non, il faut pas dire ça, c'est pas gentil. Donc, qui va avoir la parole maintenant? Vous voulez prendre la parole, Jean-Pierre?
J'attends le père.
Vous voulez pas, vous êtes juste là pour...
Pour visiter.
Franchement, qu'il est pas.
Non, mais vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas d'émission ce soir, donc j'ai pas réfléchi.
J'ai rien préparé. Bon. Ben oui, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'émission. Au revoir, monsieur François Robot. Il nous quitte. Il va encore aller déguster des merveilles dans des restaurants de son. De comment dirais-je, de son. Non, pas de son choix, mais qui font partie de ses secrets. Alors, ben, je me tourne vers Alain Pascal qui est venu nous parler du troisième tome de La guerre des gnoses, intitulé « La Renaissance, c'est imposture ». Alors là, on dit Jacques Herse, si tu nous entends, bonjour. Parce que Jacques Herse, il a fait un livre qui s'appelle « Le Moyen-Âge, c'est imposture ». Et alors vous, vous ne vous brossez pas, vous dites « Comme il n'y a pas eu de Moyen-Âge, si on en croit Jacques Herse, ben, il n'y a pas de Renaissance ».
Je tire la conséquence de étude de Jacques Herse, d'ailleurs.
Et moyennant quoi, il fait un livre de 400 pages, quand même, sur quelque chose qui n'a pas existé. Donc,
mais le Moyen-Âge n'a pas existé non plus, donc je pense
Non, mais rien n'existe. Alors c'est un travail énorme. Là, vous en êtes au troisième volume de
La guerre des gnoses.
La guerre des gnoses. Je dois dire que quand vous avez sorti le premier, j'ai pas pensé que vous sortiriez trois volumes de cette importance en 8 ans. Pardon. Vous avez publié La trahison des initiés, L'après Kabbale et La trahison des initiés. C'est même 4 volumes, parce qu'il y a La trahison, il y a L'après Kabbale, L'islam et Kabbale contre l'Occident chrétien, et puis La Renaissance, cette imposture. Pourquoi dites-vous La Renaissance, cette imposture? En quoi ça relève de l'imposture, La Renaissance?
Bien, parce que c'est un mouvement qui n'existe pas. Il n'existe pas au moment même où on veut le situer, d'abord. Et je dis que c'est une imposture parce que on fait croire que la Renaissance a apporté quelque chose de nouveau. Or, en fait, la Renaissance n'a rien redécouvert pour la bonne raison qu'il n'y avait pas eu de période d'obscurantisme pendant 10 siècles comme le décrit l'histoire officielle. Donc, si vous voulez, toute cette série s'inscrit dans une suite de l'histoire de la gnose. Et j'avais suivi la gnose dans les premiers temps du gnosticisme dès son origine, ensuite à travers l'islam et ensuite le phénomène de la Kabbale qui apparaissait à partir du XIIe siècle et qui nous conduit directement à la Renaissance, car il y a une route de la Kabbale à la Renaissance. On envisage trop souvent la Renaissance uniquement sur le plan artistique. Et la Renaissance n'est pas artistique en elle-même. Il y a une redécouverte de la beauté et de l'esthétique gréco-romaine, c'est certain, mais par contre, sur le plan culturel, la Renaissance est un retour, pour une grande partie d'elle, une grande partie de la Renaissance, donc là, est un retour de la gnose et de la cabale. Donc, si vous voulez, il y a une double imposture. La première, c'est d'opposer la Renaissance au Moyen-Âge, en disant le Moyen-Âge était une période d'obscurantisme, et là je vais me tourner vers le père Argouache, et pourquoi cette période est-elle obscure? Bien entendu, parce que c'est un temps chrétien, et la Renaissance, elle, serait une période de lumière, bien entendu, parce qu'elle va détruire l'unité religieuse, et qui était la caractéristique de la chrétienté.
La Renaissance, c'est un petit peu la vengeance des faux dieux, hein. C'est-à-dire, ou plus exactement, des dieux qui ont préparé le terrain de la religiosité. Parce qu'il est indiscutable que, enfin, il me paraît indiscutable que les dieux grecs, les dieux romains, les dieux peut-être même du panthéon indien ou autre, je ne connais pas trop, mais étaient annonciateurs de quelque chose. Il y avait déjà des valeurs, si j'ose dire, qu'on va retrouver dans le catholicisme.
Pour moi, le catholicisme a sanctifié le passé païen. Voilà, il n'y a pas d'opposition entre le passé païen, pas d'opposition totale. Il y a dans le passé païen, et notamment dans la philosophie grecque, les prémices de ce que sera l'hellénisme chrétien dès l'origine, c'est-à-dire à partir de Saint Paul, puisqu'on peut le faire commencer à partir de Saint Paul, Saint Augustin, Saint Thomas, bien entendu, le monument. Et si vous voulez, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre le catholicisme et le passé païen.
Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que...
Il y a des différences, hein, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Entendons. Mais les païens ont eu parfois les intuitions, les prémices, à moins qu'ils aient eu connaissance d'une tradition primordiale perdue, mais ça, c'est un autre sujet.
Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que on s'en prend, disons on, s'en prend au christianisme, au catholicisme, c'est avec les armes, avec des armes anciennes. Là, par exemple, la Renaissance, on voit bien que on a pour attaquer la Renaissance, on mobilise des dieux anciens. Bon, aujourd'hui, pour attaquer le catholicisme, on mobilise des mœurs anciennes qui sont notamment qui font refleurir, si j'ose dire, ou qui rééditent le sacrifice humain comme pivot de la société. Parce qu'on est dans une société qui a pour pivot le sacrifice humain.
Absolument.
L'avortement, c'est absolument typique. C'est un sacrifice quotidien à Baal, et, si qui est abandonné depuis très très longtemps.
Bien sûr. L'un des grands apports du christianisme est d'avoir modifié le sacrificiel archaïque. René Girard l'a expliqué magnifiquement. D'avoir aboli, malheureusement non, parce qu'il est revenu.
La chair et le sang quand même.
Si vous voulez, avant, dans le sacrificiel archaïque, on sacrifiait des innocents. Et pendant l'ère chrétienne, qui est quasiment terminée, j'espère qu'elle renaîtra, pour pas employer ce mot, n'est-ce pas, ce sont les coupables qui sont condamnés. Et désormais, je pense que le procès que vous évoquiez tout à l'heure montre que de nouveau, nous vivons le temps du sacrifice des innocents. Si l'on regarde le XXe siècle, bon, si je m'attaque à la Renaissance, c'est parce que je suis anti-moderne, c'est-à-dire que je dénonce les temps modernes, et particulièrement le XXe siècle, comme le plus cruel, le plus monstrueux de tous les siècles de l'histoire connue. Jamais l'homme n'a autant assassiné, tué d'innocents que pendant le XXe siècle. Or, quel XXe siècle ? L'aboutissement de la Renaissance. Le mouvement révolutionnaire commence avec la Renaissance et trouve son aboutissement dans le mondialisme et dans toute cette marche vers le mondialisme qu'a constitué cet horrible, ce monstrueux XXe siècle.
C'est du Solzhenitsyn, pur sucre.
Oui. Donc je remonte à la source de l'erreur moderne, c'est-à-dire à la source de cette erreur qui fait qu'on sacrifie de nouveau des innocents, des enfants. On a déjà tenu ces propos ici il y a quelques années, Serge, mais que l'on ne s'étonne pas, n'est-ce pas, si on fait pratiquer aux enfants des cultes de sorcières et si des enfants sont sacrifiés.
Quand on parlait tout à l'heure de René Girard, ce que Girard démontre dans J'ai vu Satan tomber comme l'éclair, c'est que ce qu'il explique, c'est que le sacrifice du Christ a pour effet, parmi d'autres, de rendre totalement intolérable toute autre forme de sacrifice. Absolument. Et totalement blasphématoire, parce que il est évident qu'à partir du moment où Dieu se sacrifie lui-même dans la personne de son fils, quand après on va égorger un poulet ou un agneau ou un enfant.
Des jeunes vierges, on sacrifie des jeunes vierges d'une façon générale.
C'est ridicule et obscène, c'est blasphématoire par rapport à la médiocrité, je dirais, de l'offrande est tellement ridicule et tellement grotesque que c'est insupportable. Et donc, normalement, personne de sensé ne devrait procéder aujourd'hui au moindre sacrifice, si ce n'est un sacrifice sur sa propre personne par une certaine ascèse ou des choses comme ça. Or,
Il faut, Serge, que le sang abreuve le sillon de la terre-mère. Ouais. Je ne vais pas citer les paroles de l'hymne révolutionnaire.
Mais c'est aussi typiquement une pensée primitive. Alors ça,
totalement, mais les temps modernes sont un temps de retour au primitif. L'origine de ma démarche, ça c'était personnel, mais c'est la lecture d'un philosophe qu'on ne lit plus malheureusement. Je ne sais même pas si les étudiants seraient capables de le lire, je suis désolé de le dire. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute des professeurs. C'est Kaiserling qui a écrit il y a à peu près 100 ans que le monde moderne verrait le retour du primitif. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le retour des mœurs primitives, du sacrificiel primitif, des arts premiers.
Il s'ouvre par...
Musée des arts premiers où l'on ne montre pas, puisque dans ce livre je parle aussi de la découverte de l'Amérique et de ce qu'ont trouvé à l'époque les civilisateurs, les Espagnols qui sont arrivés, c'est-à-dire des temples, n'est-ce pas, recouverts de sang, du sang du sacrificiel humain. Et cela... Ça n'est pas, c'est bizarre, ça n'est pas au musée des arts premiers et ça n'est pas non plus sur les dépliants publicitaires touristiques.
C'est dans le film de Mel Gibson.
Oui.
Oui, de façon assez claire.
D'une façon assez claire, bien sûr, bien sûr. Donc si vous voulez, la Renaissance, en mettant fin au temps chrétien, a permis le retour de ces mœurs. C'est pour cela qu'elle doit être dénoncée.
Quel est le... l'événement fondateur pour vous de ce qu'on, a, de ce qu'on appelle la Renaissance? Est-ce qu'il y a une charnière?
L'histoire officielle, bon, j'attaque l'histoire officielle, c'est-à-dire l'histoire qui est enseignée à l'université ou qui est éditée par les grandes maisons, pas par ma petite maison, et qui, ouais,
qui
vraiment...
Il faut le dire, c'est pas votre maison, mais c'est la question
oui,
de l'encre.
À l'encre, si vous voulez, on a créé une mythologie de la Renaissance, parce que la Renaissance officiellement, elle est datée de 1453. Or,
à quelle heure on
dit? Oui, à peu près. Or, 1453 ne correspond à rien, sauf à la chute de Constantinople, qui est un événement absolument dramatique, puisque c'est la fin de l'Empire chrétien d'Orient, et c'est le nouveau martyr de tous les chrétiens d'Orient par l'islam. Donc, si vous voulez, pourquoi donc l'histoire officielle date-t-elle la Renaissance de 1453, voilà déjà la première question. Alors, c'est d'abord très troublant que ce soit le sacrifice des chrétiens d'Orient qui date ce mouvement, alors que sur le plan culturel, 1453 ne correspond à rien du tout. Il n'y a pas une œuvre à cette époque, il n'y a pas un changement de philosophie à cette époque, ça ne correspond à rien. Ça correspond simplement à la mise à mort, au sacrifice des chrétiens d'Orient. Il y a quand même eu 50 000 morts à Constantinople en très peu de temps et on n'en parle jamais.
Alors,
si vous voulez, c'est d'autant plus absurde sur le plan littéraire, c'est que la Renaissance donc ne commence pas en 1453 parce qu'elle a commencé bien avant. Vous avez déjà des prémices de Renaissance. Alors, il y a des Renaissances pendant non pas le Moyen Âge, mais ce que j'appelle les temps féodaux. Je crois qu'il ne faut plus parler de Moyen Âge, il faut parler de temps féodaux. Temps féodaux, c'est-à-dire temps du serment germanique sanctifié par la foi, qui commence au 5e siècle quand les rois germaniques arrivent sur les décombres de l'Empire romain et qui se termine. Peut-être pas avec la Renaissance, mais plutôt avec la Réforme, mais ça j'en parlerai dans un autre livre. Mais pendant tout ce temps-là, le christianisme était la religion de l'Orient et de l'Occident. Et en 1453, on a cette rupture, et tout l'Orient qui était chrétien, il ne faut pas oublier que l'Orient a été christianisé avant d'être islamisé, bien entendu, et pas définitivement, mais a basculé sous le joug musulman.
Mais ça, on sait
sur le plan, oui. Mais alors, si vous voulez, sur le plan culturel, il y a eu trois renaissances en vérité. La première renaissance, la première idée, c'est-à-dire de raccrocher le christianisme au passé païen, à la culture païenne antérieure, c'est la renaissance carolingienne. Donc, dès l'an 800, c'est l'œuvre d'Alcuin, de Charlemagne. J'en parlais dans le livre précédent, c'est l'islam et cabale contre l'Occident chrétien. Tous mes livres sont épuisés, Serge. Les lecteurs peut-être aussi, mais les livres sont épuisés. Donc c'est quand même bon signe. Je remercie d'ailleurs les lecteurs qui les ont tous achetés. Et il y a une seconde renaissance qui est la scolastique. Quand on dit que le Moyen-Âge est obscur sur un plan culturel, le contraire est démontré par la scolastique, puisque du 11e au 13e siècle, les scolastiques disputent sur Platon et sur Aristote. C'est donc qu'ils en avaient la connaissance. Donc, si vous voulez, rien n'est nouveau avec la Renaissance.
Attendez, je vous arrête. S'il n'y avait pas eu les Arabes, on ne saurait pas tout ça. Ni la roue, ni la...
Voilà, ça c'est le mythe de l'apport arabe. Il faut savoir, ça c'est pas dans ce livre-là, c'est le livre d'avant, mais enfin, il faut savoir qu'Aristote avait été traduit bien avant les traductions arabes, et que de toute façon, les Dominicains, eux, ont travaillé sur des textes qui étaient directement traduits du grec, alors que malheureusement certains franciscains avaient travaillé sur des textes traduits de l'arabe et qui étaient agrémentés des commentaires d'Averroès. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux renaissances pendant les temps féodaux. Vous avez la renaissance carolingienne, la renaissance de la scolastique, et puis vous avez ensuite encore une renaissance qui est assez chrétienne, c'est la renaissance du Trecento italien. Et alors là, elle commence déjà à être plus ambiguë. Il y a déjà dans Dante les prémices de ce que sera la renaissance d'Érasme. Dante est un ancêtre d'Érasme. Pétrarque, les disciples de Dante, Pétrarque ou Boccace...
Oui, mais la question, question intéressante, c'est de savoir si ce sont des produits ou des agents de l'imposture. Dante, il c'est quand même un écrivain.
C'est un grand écrivain, c'est un génie. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne pense pas du tout bien d'Érasme. Par exemple, si on compare Dante à Érasme, on a d'un côté un génie et de l'autre côté un esprit qui, quand on lit ses œuvres, malheureusement, je me suis astreint à les relire, sont d'une médiocrité extraordinaire. Ouais. Ne lisez pas l'éloge de la folie, sinon, pour savoir ce qui y est contenu. Mais c'est un succès immérité. Dante, bien entendu, non. Dante est un génie de la poésie. Maintenant, sous certains aspects, Dante est gnostique, c'est-à-dire que je ne peux pas approuver totalement les papes qui ont pensé du bien de Dante. On a le droit de critiquer les papes, sauf quand ils s'expriment ex cathedra, mais on a le droit de les critiquer sur le plan littéraire ou même sur le plan politique. On peut critiquer, c'est même peut-être un devoir d'un chrétien de critiquer le ralliement, la condamnation de l'action française et pourquoi pas l'adoption ou tout au moins la permissivité à l'égard des droits de l'homme.
Mais en France, on a un personnage qui incarne, enfin un écrivain qui est probablement, à mon sens, le plus grand écrivain français, l'inventeur de la langue française, c'est Rabelais. Alors Rabelais, qu'est-ce que c'est?
Alors Rabelais,
l'esprit de la Renaissance ou c'est
Jean? Ah oui, c'est Jean. Là, parce que je ne traite pas la Renaissance au XVIe siècle, je ne traite la Renaissance que jusqu'à 1520. Donc, si vous voulez, je parlerai de Rabelais dans le prochain livre. Mais Rabelais est un initié. Il a fréquenté des kabbalistes, notamment à Montpellier, et c'est véritablement un ennemi de la foi, oui. Totalement. Alors, lui fait partie d'un complot. Bon, ça n'est pas le cas d'un Pétrarque, que je pense, par exemple.
Alors, Dante et
Boccace faisaient partie d'une société secrète, qui était la société secrète des fidèles d'amour, ce qui n'était pas le cas de Pétrarque. Alors, Pétrarque, lui, il a le tort d'être initié à l'hermétisme, et il introduit finalement toute cette dérive hermétique de la Renaissance. Du 15e siècle, celle que l'on connaît, et notamment, alors je me penche beaucoup sur un auteur qu'on ne connaît pas assez bien, qui est Marcil et Fichin. Il y a des gens dont on ne parle jamais. J'avais dans mon premier livre parlé de Plotin, parce que finalement c'est par Plotin, par le prisme de Plotin au 3e siècle, voilà, que l'on connaît toute la philosophie antérieure, et notamment qu'elle est déformée. Et Fichin est le traducteur du corpus hermétique et il est le principal professeur de l'université de l'académie de Florence sous les Médicis.
Vous n'avez pas l'impression que d'une certaine manière des gens comme Rabelais, des gens même comme Shakespeare, parce que ça va plus loin, mais sont moins des ennemis de la foi que des aventuriers trop curieux?
Shakespeare peut-être, Rabelais non. Je pense que vraiment j'ai une opinion détestable de Rabelais. Pour moi c'est un personnage détestable. Bon, j'en reparlerai une autre fois, mais...
Ça
sera le livre d'après, Serge. Il faudra peut-être attendre 2 ou 3 ans.
Je vais attendre le livre, parce que moi, je suis un admirateur de Rabelais parce qu'il a inventé en grande partie la langue française et que... C'est un immense génie. Enfin, on peut pas imaginer la culture, la civilisation française sans Rabelais. Et donc, j'ai du mal à croire que c'est un malfaiteur.
C'est pas un homme courtois, ça serait plutôt un homme paillard. J'aimerais mieux la courtoisie.
Il était dans son temps. C'était un temps de paillardise, parce que c'était un temps de vraiment. Alors là, pour le coup, charnel. C'était des sacrés bons hommes, quand même.
Oui, mais enfin, Rabelais, vous savez qu'il a été protégé par le cardinal du Bellay, et notamment qu'il est allé à Rome et qu'il a défendu la cause d'Henri VIII. Or, c'est l'époque où Henri VIII a fait assassiner Thomas More, par exemple, dans les humanistes. Donc, si vous voulez, moi, je différencie la Renaissance et l'humanisme chrétien de l'humanisme avec un grand H, qui est la religion de l'homme et qui est évidemment le contraire de notre religion. Mais il y a eu des humanistes, même proches d'Érasme, comme Thomas More, qui ont laissé leur vie. Et Rabelais a défendu Henri VIII. Donc il a été quand même du côté...
J'ai pas d'opinion, parce que je la connais mal, sur la vie de Rabelais. Parce que je connais bien pour l'avoir...
Voilà, je ne donne qu'une anecdote.
Un peu pour l'avoir lu, c'est son œuvre. Et c'est de ça que je parle en disant que j'ai de l'admiration. Mais
encore une fois, je ne parle pas de Rabelais dans ce tome. Bon, je parle donc de Fichin. Et si vous voulez, Fichin a une importance parce que il dit que l'hermétisme, le corpus hermétique, est la première révélation. Ce qui est bien entendu totalement hérétique, ce qui est impossible sur un plan chronologique déjà, parce que le corpus est du 2e siècle après Jésus-Christ, donc il ne peut pas être antérieur à Moïse, mais qui a eu une influence fondamentale parce que par la suite, les initiés hermétiques ont pensé que toutes les religions venaient du corpus hermétique et qu'ils pourraient les réunir, et c'est en quelque sorte ce qui a été réalisé par la Déclaration des droits de l'homme. Donc si vous voulez, moi je remonte à l'origine des erreurs modernes. Je suis
La Renaissance, cette imposture, acceptons ça. Maintenant, est-ce qu'elle était évitable? Parce que c'est pas un complot. Il n'y a pas un type un jour qui a dit tiens, on va monter un gigantesque complot qu'on va appeler la Renaissance.
Non. Alors le mot Renaissance lui-même, il a été inventé à la fin du XVIIe par un protestant, et puis il a été vulgarisé par l'encyclopédie. Donc c'est un mot révolutionnaire, le mot Renaissance. Jamais les gens de cette époque-là ne se sont appelés renaissants. Le mot apparaît.
Pas de conversation. On disait nous autres qui vivons la Renaissance.
Voilà.
Nous autres braves soldats du Moyen Âge. Comme on l'a entendu sur les planches.
Ah, voilà. Je répète toujours ça, parce que je me souviens d'une... Ça fait 50 fois que je la raconte, mais elle est tellement belle que... c'était une série télévision où on voyait donc les soldats du roi qui venaient s'emparer d'un paysan pour l'engager, enfin l'embaucher de force dans les armées du roi, et ils arrivent devant la ferme, ils sont à cheval, et le chef de la petite troupe dit à la fermière « Où est ton mari ?» Et elle dit il est parti faire la guerre de 100 ans.
Non mais, dire qu'il y a un complot, il y a eu des cercles d'initiés, il y a une forme de complot au temps des Médicis, avec Côme de Médicis et Marsile Fichin, qui sont les chefs finalement d'humanistes païens comme Politien, ou ensuite...
C'est ça qui est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que voilà des gens, les Médicis, on sait très bien que c'est une famille empoisonnée.
Oui.
Bon, ça, c'est évident. Mais autour d'eux circule tout un mouvement de pensée, tout un mouvement de création artistique, intellectuelle.
Ils entretiennent à la fois une confusion de l'église, qui ne sont plus de style gothique, qui sont du style néo-païen, et ils entretiennent des artistes chrétiens, bon, je dis Frangelico, par exemple, mais aussi beaucoup d'humanistes qui sont vraiment antichrétien. Fichin est vraiment antichrétien et Politien est un païen, un hédoniste, c'est un ancêtre de Franklin.
Alors votre conclusion, c'est qu'il faut le...
Mais au niveau du complot, dirais qu'il y a un complot pour moi qui est fomenté par Erasme. Erasme est vraiment au centre d'un complot qui a des ramifications dans tous les pays d'Europe et qui est un engagement contre l'Église, principalement contre l'Église et contre la foi catholique. Pour moi, il y a un complot. Erasme est le chef du complot au début du XVIe siècle.
On le voit en Italie, on le voit en France.
On le voit en Angleterre, on le voit en Hollande, on le voit... Alors, l'Espagne fait exception. Je voudrais rapprocher cette exception d'un événement. Dans le fond, il y a peut-être un rapport de cause à effet, qui est l'expulsion de certaines personnes d'Espagne.
C'est une coïncidence.
C'est une coïncidence.
Ça peut pas être une explication.
Je pense pas. Ça serait vraiment invraisemblable.
C'est ridicule. D'abord, c'est interdit.
Voilà.
Mais écoutez, on va lire ce livre qui est, en tout cas, qui est un document à garder dans sa bibliothèque parce que il est bourré de références. Il est plein de dates. Il est factuel. Il est Et l'analyse, vous en avez entendu vous en avez eu un petit aperçu. C'est intéressant, c'est assez entre guillemets courageux, c'est original.
Je dirais qu'il y a deux passages du livre qui ont été censurés par l'avocat de la maison d'édition. D'autres formules que j'ai évitées. Maintenant, j'essaye. Si vous voulez, ce qu'il y a de grave, c'est que l'on ne puisse plus travailler librement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus employer les mots. Donc, moi, je vais au fond des choses, je donne les doctrines, je donne les références, les textes et les aboutissements. Et je cite très souvent, d'ailleurs, des historiens qui ne sont pas catholiques. Je suis personnellement un catholique traditionnaliste, mais je cite des historiens qui ne sont pas nécessairement catholiques, car dans le fond, ça donne plus de poids parfois à ce qu'ils disent, à ce que l'on peut dire. Serge, ce que je voudrais, c'est, puisque vous parliez tout à l'heure de la librairie nationale 12 rue de la Sourdière, c'est dire que moi aussi je signe mon livre samedi, c'est-à-dire samedi 14 avril de 14h à 18h à la librairie nationale 12 rue de la Sourdière, donc près de l'Opéra et du marché Saint-Honoré.
Vous l'avez signé parce que vous l'avez écrit, alors il y a tellement de gens qui signent des livres sans
voilà, déjà. Écrit que... Et puis juste un tout petit mot parce que je ferai une conférence au séminaire Saint-Vincent de Paul à Courtalain. J'ai la grande chance d'être une partie de la semaine près de Courtalain. Et je ferai une conférence le 11 mai à 20h30. Courtalain est devenu presque un nouveau centre du monde. Je vais pas aller
Vous avez piqué le statut de la gare de Perpignan. Alors.
Non, mais vous savez qu'un séminaire traditionnaliste s'est ouvert depuis 6 mois à Courtalain. Je les ai vus dès le départ. Vous avez un abbé qui est formidable, qui fait des sermons extraordinaires, qui avait au début 4-5 séminaristes. Ils sont aujourd'hui près d'une quinzaine. Ils ont reçu des séminaristes d'Amérique du Sud. Et il y a véritablement un engouement à Courtalain pour ce séminaire. Donc je crois qu'ils vont faire une œuvre extraordinaire. C'est merveilleux de penser que dans un tout petit bourg, une partie du monde entier va venir se former pour évangéliser le monde. Donc bravo au séminaire de Courtalain, et donc j'y ferai une conférence pour les gens de Chartres par exemple, c'est les gens qui sont prêts, le 11 mai à 20h30.
Merci Alain Pascal,
c'est moi qui vous remercie.
De votre livre La guerre des gnoses, la renaissance et imposture, c'est le 4e volume en fait, et c'est paru aux éditions de l'Encre. Où vous irez signer ce livre?
Le 14 avril.
14 avril.
Samedi prochain.
Samedi prochain, de 14h à 18h, 12 rue de la Sourdière.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et bien maintenant, on va revenir à des choses plus catholiques.
Non, mais il est très catholique.
Il a défendu le catholicisme et même la chrétienté.
Très bien, là, parce que...
On s'excuse d'abord auprès des auditeurs qui envoient des messages parfois à temps, mais là, voilà, on a ce qu'on appelle un conducteur dans notre jargon et le sujet est épuisé et terminé. Peut-être qu'on passe ces questions à Monsieur Pascal.
Ah tiens, mais il y a une chose intéressante, c'est que on a une amie que j'embrasse au passage, d'ailleurs. Très très courtoisement
et qui s'appelle Argouarche, pourquoi ne pas le dire?
Par le fait qui dit à propos de Ferchaud, lui-même s'il n'est pas l'aîné, n'est-il pas de la famille de Claire Ferchaud à Loublande? C'est pas exclu du tout. Ferchaud, c'est l'épicier d'algues. Ça serait amusant.
Je crois que c'est de la même famille.
La même famille,
oui, je pense.
Ah ben voilà. Bon ben écoutez, vous voyez comme. Madame, votre belle-sœur est avisée dans ses appels téléphoniques.
Bon, mais on s'assied, Serge, sur les messages qui visent l'intervention précédente.
Non.
Je ne sais pas si c'est intéressant, vous allez me le dire. Dans quelques temps, on s'apercevra que ce sont les catholiques qui ont été les plus persécutés. Autre question, Serge de Becquet.
Il faut y ajouter les orthodoxes, parce que nous, catholiques... Ouais. Oui. Moi, je suis œcuménique. Alors, vous savez, il y a deux sens au terme œcuménique. Donc, œcuménisme avec les orthodoxes, c'est-à-dire avec ceux qui respectent la tradition chrétienne.
C'est un mot grec.
Voilà. L'œcuménisme, en vérité, doit se limiter... Le véritable œcuménisme, c'est de ramener à la vérité chrétienne, au catholicisme et à l'orthodoxie, les brebis égarées, notamment les protestants. Les autres, après si on ouvre l'œcuménisme à d'autres religions ou fausses religions, je crois que c'est pas le bon terme.
J'entends les adhésions à Radio Courtoisie qui tombent, tous nos amis protestants qui sont si nombreux à nous envoyer des...
Mais en parlant de protestation, on a reçu des messages à peine polis de gens qui s'ennuyaient. Alors ça m'a rappelé qu'on avait des milliers d'auditeurs de gauche et d'extrême gauche. Alors on leur dit coucou, salut, c'est gentil de nous écouter, mais enfin on est encore chez nous. Et si on veut arrêter de blaguer, de plaisanter pour être sérieux un quart d'heure, eh ben, que vous soyez d'accord ou pas, on va continuer. Serge de Becquetch, avez-vous des renseignements sur le livre La Gnose de Princeton? C'est une question sérieuse, oui, je la comprends
oui,
pas
oui,
tout
non,
à fait.
Non, parce qu'il y a un bouquin qui est paru il y a maintenant 40 ans, c'est ça, 40 ans à peu près, qui s'appelait La Gnose de Princeton, et qui était un bouquin qui expliquait comment les savants de certains savants de l'université de Princeton, bon, disons pour simplifier, étaient arrivés en gros à force de recherche dans leur domaine de compétences ou d'expertise, comme on dit maintenant, à se ranger à l'opinion que peut-être il y avait une transcendance. C'est
alors
ça,
là,
je dis pas de bêtises.
C'est ça, c'est ça.
Je sais pas si cet auditeur
c'était le groupe Planète qui avait comment dirais-je popularisé.
On n'en parle plus à cause de ça, parce que finalement, quand les savants se reconvertissent ou quand les gens se convertissent, alors si vous voulez, il y a des gens qui ont la foi innée, si je peux m'exprimer ainsi, la foi du charbonnier. Moi, je m'adresse souvent aux païens. Alors on l'a aussi reproché de m'adresser aux païens, mais je pense qu'il y a des nouveaux gentils qu'il faut reconvertir, donc s'adresser à leur intelligence. Donc s'il y a des gens que j'ennuie, bah, qu'ils n'achètent pas mon livre. Mais s'il y a des gens qui veulent... j'ai déjà eu un livre volé une fois à l'université.
C'est très flatteur. On appelle ça flatteur, le test de l'étagère dans l'édition. Ouais. Quand un bouquin est volé, c'est qu'il est intéressant. Alors,
moi, je m'adresse à l'intelligence et pas uniquement à celle des catholiques. Pourquoi pas? Parce que le catholicisme est la plus intelligente des religions et il faut aussi en persuader tout le monde. Donc, voilà.
Alors, on a un auditeur, je ne sais pas s'il est de gauche, d'extrême-gauche ou de l'Orient, qui nous dit que la Divine Comédie de Dante est un plagiat éhonté du philosophe arabe Al-Mari, etc., qui vécut un siècle. Bon, je ne sais pas s'il faut réfuter ça. Écoutez, je finis et puis vous répondrez à ce qui vous semblera bon. Que pensez-vous des concepts astronomiques du Moyen-Âge qui étaient complètement faux puisque basés sur la théorie d'Aristote? Nos belles églises du XVIe siècle sont néo-païennes, alors je suppose qu'il y a un point d'ironie ou d'exclamation ou d'interrogation ou les trois ensemble.
Non, mais les églises de Florence sont néo-païennes, la construction néo-païenne.
Beaucoup sont la copie des temples grecs.
Oui, oui.
C'est pas scandaleux en soi.
Oui, comme la Madeleine, je dis une bêtise. Hein.
La Madeleine, sauf erreur de ma part, n'est pas du XVIe siècle. Mais
non, mais elle est un peu néo-grecque.
Elle n'a pas été faite pour être une église au départ, mais pour être un grand magasin.
Ah bon?
Non.
Bah si.
Bon.
La conception d'Aristote, alors là, c'est tout le procès Galilée qu'il faudrait refaire. Oui. Mais oui. Mais si vous voulez, l'Église n'a jamais demandé.
Galilée, c'est cet imbécile qui prétendait que la Terre tourne autour du Soleil.
Oui, c'est un des faux historiques. C'est un faux.
Quand
Galilée a été condamné, on fait dire à Galilée, et pourtant elle tourne. Et il ne l'a jamais dit. Ça fait partie des faux. Il y a beaucoup de faux historiques.
Il s'est bien fait pas à ce point-là. Voilà. Vous pouvez pas croire que la Terre.
Mais en fait, il s'agissait d'attaquer la synthèse thomiste. Donc, si on a attaqué l'Aristote, si la Renaissance a attaqué Aristote au nom de Platon, c'est pas du tout pour défendre Platon, parce que finalement Platon peut aussi être christianisé. C'est ce qu'avait fait saint Augustin. On a attaqué Aristote parce qu'il y avait la synthèse thomiste. C'est tout. Le premier élément de votre question, là, j'ai oublié, je voulais vous répondre tout de suite.
On accuse Dante de plagiat, d'avoir plagié.
Non, mais Dante, à sa source, d'abord, Dante a oui, tout à fait. Dante a pris la Divine Comédie, un plagiat, c'est un grand mot, mais c'est inspiré de poèmes, de poésie arabe, oui, absolument.
Non, mais
alors maintenant, on diverge sur les sources, parce que selon certains auteurs, c'est-à-dire selon Guénon, ça serait Ibn Arabi. Donc si vous voulez, la source elle-même, on peut ne pas être d'accord, mais Dante a puisé sa source dans l'islam. Ben,
comme la Fontaine des Opes.
Et de mon point de vue, il est aussi avéroïste sur un plan philosophique, ce qui est impossible pour un thomiste. Donc on dit que Dante est thomiste, alors qu'en fait, il est avéroïste. Donc il y a là...
Avéroïste étant un philosophe arabe.
Ça, c'est pas le deuxième degré, c'est pour réveiller l'auditeur.
Oui. C'est d'ailleurs le seul philosophe arabe. C'est-à-dire que les autres philosophes arabes, Avicenne et Perse, Maïmonide est un rabbin.
Donc on peut répondre.
Il n'est pas vraiment arabe.
À notre auditeur et à ceux qui l'auraient troublé, qu'il ne s'agit pas de plagiat, mais de continuité, de source, exactement comme La Fontaine imite et récrit Ésope, ou comme Serge de Beckett s'inspire un peu de Léon Blois. Slurp, slurp. Est-ce que j'ai bien léché la chèvre?
C'était très bien. J'aurais préféré Léon Daudet, mais puisque vous tenez à Léon Blois, allons-y. Merci Alain Pascal. Mon père, quand vous aurez fini vos petits graffitis...
Il fait un sudoku. Quoi.
Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, père Aguirre.
Je prends des notes, je passe alors, aussi. C'est très intéressant ce que dit monsieur Pascal.
À la surprise générale, le père Aguirre est venu pour plusieurs raisons. La première, c'est de nous parler du village d'enfants de Riaumont. La deuxième, c'est de nous parler du village de...
Breton du Gaveur.
Breton du Gaveur
Locrist.
La troisième, c'est de nous annoncer la parution prochaine de son livre, dont la préface, on peut le dire.
Oui, absolument, parce qu'elle est approuvée maintenant par l'auteur.
Est magnifiquement écrite par Jean Raspail, qui a décidément bien du talent.
Et qui devrait être à l'Académie. Je le dis parce qu'il y a eu 6 morts à l'Académie.
Oui, mais enfin, bon, c'est... oui, bref. En
fait, j'ai gaffé, Serge.
Non, pas du tout, mais le fait qu'il n'y soit pas est en soi la condamnation de cette illustre compagnie. Et puis, peut-être même que le père Argouache va innover pour la première fois dans cette émission. Il va peut-être demander un peu de sous. Non ?
Je sais pas. Pour nourrir ses gosses de langouste.
Serge, j'en demande pas toujours et on m'en envoie, mais il faut que j'arrive à convaincre ceux qui m'écoutent. Mais je sais qu'ils sont très nombreux à aimer Riaumont. J'espère que je serai pas mauvais ce soir. Voilà. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Riaumont.
Ah,
vous savez que j'ai succédé au père Revet en 1986.
Oui.
Le père Revet est mort le 29 juin 1986. Donc, il avait créé une association Notre-Dame de Riaumont. Et bien sûr, dès les débuts, j'ai fait un dossier pour envoyer à la préfecture, mais ce dossier est arrivé sans doute que le 5 juillet 88, car on a eu une inspection, vous savez qu'on a eu des ennuis parce qu'on a eu un problème assez important il y a 5-6 ans, et ils avaient perdu le dossier. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils viennent de le retrouver il y a quelques jours, et ils nous disent textuellement, nous vous avions pas donné à l'époque de récépissé. Et donc, nous vous envoyons un récépissé pour votre document du 5 juillet 88 et du 23 mars 90. Quand je dis Riaumont, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que voici l'administration qui, normalement, s'occupe de nous avec des grosses jumelles, avec des viseurs de chars, des hélicoptères, des avions. Et je raconte dans mon livre qu'il y a des petits avions qui sont affrétés pour prendre des photos de notre territoire, qui n'est pas du tout la principauté de Monaco, mais qui est quand même un territoire effectivement très indépendant, puisqu'on défend un certain nombre de valeurs qui sont honnies aujourd'hui. Et donc, on vient de recevoir cette lettre il y a 2 jours... Et alors, on se dit, ils vont s'occuper de nous sérieusement, parce que c'est une histoire de procédure, donc un papier qui manque, vous vous rendez compte, qui date de 88 et 90, et il nous faut le récépissé maintenant, en 2007.
C'est signé Monsieur Le Mérinos, non?
Alors, ça vient du Conseil Général, du Président du Conseil Général, etc., etc. C'est extraordinaire. Alors, on nous refait le coup du gros dossier, avec, bien sûr, le budget prévisionnel, la nomenclature.
Qui vous réclame.
Oui. De nouveau. Un nouveau dossier. Donc, ce dossier, alors même, enfin, il y a des détails, je raconte pas tout ce qu'on nous demande, mais normalement, on doit envoyer tous ces détails-là en septembre tous les ans.
Oui, mais attendez, si eux, ils vous ont pas envoyé de laisser pisser.
Oui.
Pourquoi vous ne le faites pas, vous?
Ben,
vous
nous,
répondez pas.
Mais nous, on a envoyé notre dossier avec un accusé de réception. On a l'accusé de réception de l'époque. Donc, donc on sait que c'est arrivé. Mais Riaumont est tellement quelque chose qui sort de l'ordinaire qu'on comprend que les fonctionnaires qui sont en poste se disent mais on peut pas interdire complètement Riaumont, mais d'autre part on peut pas non plus leur donner une autorisation. Et ils sont toujours entre deux. Et c'est toute l'histoire du procès qu'on a fait à l'État et qu'on a gagné au bout de 16 ans de procédure pour les indemnités de licenciement. Pendant 16 ans. Et on a fait condamner quand même, c'est pas rien, le préfet d'Arras.
Mais pour les nouveaux auditeurs, là, rappelons que Riaumont est un village d'enfants, c'est-à-dire un orphelinat. Et comme disait Patrick Besson, qui a fait un reportage là-bas, une fois que j'ai déjà cité, je m'excuse de
recommencer. Mais je trouve que Patrick, que vous défendez beaucoup Patrick Besson.
Non, je défends pas Patrick Besson. Je le cite simplement parce que dans son reportage, il avait fait un reportage avec Bettina Reims et toute une bande de journalistes extrêmement riches, extrêmement cyniques. Absolument. Et il leur disait, il faudrait peut-être pas taper trop dur sur un orphelinat parce que ça risque de nous rendre impopulaires. Alors peut-être que l'administration a la même pensée géniale qu'il vaut peut-être mieux pas taper sur les orphelins, mais enfin la nuit quand personne
ne
regarde. Oui,
mais il va y avoir un changement de gouvernement dans quelques jours. Il va y avoir sans doute des nominations, etc. Et on se dit, quand on est fonctionnaire, mais est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait sur le plan réglementaire pour cette œuvre qui défrait la chronique, dont on parle trop, etc. Est-ce que ça va pas remonter à nous? Est-ce qu'on va pas nous faire un nouveau procès comme les procès de Prague? Et est-ce qu'il va pas manquer une pièce pour nous faire condamner? Et une erreur de procédure, parce qu'on sait très bien qu'on a quand même des bons avocats. Donc on se demande, en tout cas, nous, on se dit vraiment, c'est extraordinaire qu'on nous envoie cette pièce qui manquait vraiment à notre dossier, l'accusé de réception pour des documents qui datent du 5 juillet 88 et du 23 mars 90. Merci l'administration française.
C'est peut-être la poste aussi. Hein.
Oui.
Parce que c'est parti d'où le laissez-passer
Ah, ça vient de la préfecture, ça.
La préfecture, elle est où? À Lens?
À l'état Arras.
À Arras?
Oui.
Il y a combien de kilomètres entre Arras et Liévin?
15.
Ah bah... Et vous dites combien de temps? 8 ans?
Ah bah ça a mis de 90 à 2007, ça fait combien?
18 ans?
Il y a des cartes postales de la guerre de 14 qui arrivent encore ces jours-ci.
18 ans pour faire 15
kilomètres. C'est pour dire qu'on a toujours besoin des amis de Riaumont et on ne sait jamais ce qu'on va nous préparer. Peut-être que
c'est... peut-être offrir une bicyclette.
Non mais si on était arrêté comme maison d'enfants en tant que maison d'hébergement, ça veut dire que tous nos amis doivent prendre leur voiture d'un seul coup pour faire une manifestation grandiose. Il y avait une manifestation grandiose au monument canadien.
Ouais, je pensais à vous d'ailleurs.
Et lundi, oui, où j'étais, j'ai participé, j'ai vu sur un écran géant tout ce qui se passait. Mais sur cette colline-là, on a toujours besoin, on sait jamais ce qui va se passer. Regardez cette histoire à dormir debout quand même. Comment ça se fait que d'un seul coup on s'inquiète de Riaumont alors qu'on nous a laissé tranquille pendant quelques années?
C'est incroyable.
Voilà. Bon, pour ce chapitre-là, c'est clos.
Moi, je vous prédis que vous finirez subventionné grassement.
Ah bah, dès qu'on sera au pouvoir,
Ou peut-être même avant.
Non,
parce que c'est vrai que s'acharner sur des orphelins, ça la fout un peu mal quand même.
Il n'y a pas que des orphelins.
Même s'ils sont catholiques.
Il y a des parents qui m'écoutent, des parents d'enfants. Je rappelle que nous recevons aussi des enfants qui sont pas orphelins, qu'il y a 500 scouts en particulier qui dépendent du village d'enfants de Riaumont, ainsi que, bien sûr, d'autres jeunes.
Ah oui, mais
jeunes.
Les pensionnaires de Riaumont, c'est des enfants, pas forcément orphelins, mais qui connaissent
beaucoup de difficultés.
Des difficultés d'ordre familial.
Oui, certains sont complètement orphelins, comme Nicolas Pavlik, qui est un de mes garçons, c'est mon fils, et ses parents... Sa maman.
Vous avez raison, tout le monde ne peut pas être orphelin.
Son papa est mort et sa maman.
Arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a même des enfants de divorcés.
Oui, bien sûr, ouais, et voilà. Puis voilà.
Et vous voudriez qu'on vous envoie de l'argent?
Écoutez, c'est toutes les déchirures familiales que nous essayons de penser comme des blessures, de mettre des beaux pansements pour que ça guérisse. Voilà. Avec l'aide de Dieu.
Mais des pansements qui sont joliment faits parce que vous multipliez les activités. Alors d'abord, les gens me disent souvent, mais qu'est-ce que c'est Riaumont? Alors j'en dis, abonnez-vous à la Citadelle de l'Espérance, comme ça vous le saurez. C'est le mensuel de Riaumont qui donne des nouvelles du village.
Alors que les auditeurs se rassurent, le dernier numéro, les photos en noir et blanc sont un peu passées parce qu'on change dans 3 ou 4 jours de machine. Ah. Avoir des machines plus fortes et.
Vous auriez bien fait de changer de machine une semaine plus tôt parce que
plus belle.
Vos photos là.
Même c'est justement, les gens vont nous donner de l'argent parce qu'ils disent, là, c'est vraiment la tristesse.
Non mais c'est pour colorer.
C'est l'église des Prends-Pitié, ça s'appelle l'église des Prends-Pitié, ça. Ah, oui.
C'est pour faire pauvre, quoi, en termes plus clairs.
Alors, donc, l'abonnement, on va assérier les questions. L'abonnement à Citadelle de l'Espérance, il faut envoyer abonnement simple 22 euros, abonnement compliqué 31 euros. On appelle aussi abonnement de soutien. Donc, 22 ou 31 euros, mais si vous voulez envoyer 35, ils vous renverront pas.
Et alors, on envoie à toute personne gratuitement qui nous demanderait la revue.
Un spécimen.
Oui. Eux-mêmes, plusieurs.
Donc, un chèque.
On est très généreux. Oui.
à l'ordre de Association Notre-Dame de Riaumont, CCP 3100, ou 3100 si vous préférez, 04 F Lille. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est comme
oh
ça.
Là là.
Ça vous plaît ou non, c'est pareil. Je répète.
Ça fait peur. Hein.
Association Notre-Dame de Riaumont, CCP 3100, 04 F, F comme François, Lille. Ça, c'est l'ordre du chèque. Et l'adresse de l'association Notre-Dame de Riaumont, c'est boîte postale 28 62 801 Liévin CEDEX. Et il y a un site qui est http://riaumont.net/fraction/fraction.
Alors donc Serge, au dos de couverture, il y a donc un programme. On voit les scouts de Riaumont sous l'arc de triomphe, puisque tous les ans nous ranimons la flamme grâce au comité de la flamme et à l'association des scouts français anciens combattants, puisqu'on a un mémorial.
Ça, c'est l'ANSFAC.
L'ANSFAC. On peut adhérer à l'ANSFAC. Il y a actuellement des adhésions à l'ANSFAC qui sont à peu près 55. Nous étions représentés justement au monument canadien. Et donc on va défiler sur les Champs-Élysées. Alors vous pouvez donner le jour, ça doit être le samedi 27 avril ou 28 avril, c'est ça?
À la 28 fin. Avril.
Le 28 avril, rendez-vous à la station Georges V vers 17h30 pour défiler avec les scouts de Riaumont, mais aussi avec tous ceux de toutes les associations qui voudront bien venir. On a invité toutes les associations. Peut-être certains auront peur d'avoir des sanctions parce que les autres mouvements, eh bien, fréquenter Riaumont fait peur. Mais d'autres seront courageux et mettront leur uniforme, qu'ils soient scouts d'Europe, qu'ils soient scouts unitaires, qu'ils soient éclaireurs neutres de France. On en fait partie, on est agréé par les éclaireurs neutres de France ou d'autres associations. Ils sont tous invités par l'ANSFAC à défiler sous l'arc de triomphe et à rallumer la flamme. Et le lendemain,
17h30 métro Georges V, voilà. Le 28 avril. Et voilà. Le lendemain, le 29 avril,
la grande journée à Villepreux, donc il y aura tous nos scouts qui seront là et puis tous nos amis. Grand-messe
à
11h, repas pris en commun, repas tiré du sac. Et l'heure après, il y aura une présentation par Louis Fontaine du film de Jean Bauré de 1947. Et puis, il y aura aussi un carrefour sur scoutisme et chevalerie avec plusieurs écrivains du scoutisme. Des évocations par le père Alain Hochmiller ou par moi-même. Voilà, tout l'après-midi pour évoquer le scoutisme.
D'accord. Alors ça, c'est la réunion de l'ANSFAC 28 et 29 avril.
Le 29 avril, c'est aussi Riaumont. C'est le village d'enfants de Riaumont, les scouts de Riaumont qui se réunissent, puisqu'on a été écartés des manifestations nationales qui étaient organisées parce que nous sommes attachés à la messe tridentine et à la liturgie de Saint-Pie-V.
C'est grave, ça.
Ça, c'est très, très
voilà.
Grave.
Alors,
pourtant, le pape a l'air de trouver que c'est pas si grave que ça. Mais
nous attendons son document avec impatience.
Motu proprio.
Voilà.
Et c'est motus proprio pour l'instant.
Et puis, il y aura donc cette journée au Gerverlo-Christ. Alors là, une journée nationale.
Ah, c'est quand est-ce que c'est, ça commence?
Alors, c'est le 23 juillet, le lundi 23 juillet, au Gerverlo-Christ, à 25 km de Lorient, tout près d'Ennebon, Ploué. Et là, il y aura une messe célébrée par Monseigneur Santaine, et je crois que ce sera le premier évêque français qui dira une messe tridentine pour un grand rassemblement scout.
Évêque de Vannes, hein, c'est le régional de l'État.
Évêque de Vannes, qui est natif de.
J'ai dit une connerie.
Qui est natif de Banyuls.
Né natif de Banyuls.
Voilà, et puis il y aura.
Je connais sa famille.
Oui, vous avez fait un très bel article, Serge, sur lui quand il a été sacré évêque. Et puis il y aura l'après-midi donc des rallyes, il y a un tas de camps qui sont organisés, c'est des activités passionnantes, une procession comme un pardon, ce sera un pardon dans les bois, mais surtout une gigantesque veillée le soir. Dans une sorte de cratère que nous sommes en train de construire avec des bulldozers, et il y aura une décoration fabuleuse, parce qu'il y a un chemin de randonnée qui passe en haut de ce cratère, et il y aura une veillée à l'ancienne pour ceux qui aiment les veillées scouts. et qui est pas un son et lumière, c'est une veillée classique, mais qui sera formidable. Je suis déjà allé sur place pour préparer. Ça va être sensationnel pour ceux qui font le déplacement. On peut aller en Bretagne pour ses vacances et faire un petit crochet.
J'allais le dire. Est-ce que les mécréants sont invités?
Emportez-vous par rapport.
Principalement les mécréants, tous ceux qui sont là, en bordure, qui n'ont pas à manger, etc. Tout le monde peut venir. Voilà.
C'est les veillées de Riomont, c'est un truc à voir. Ça, les veillées et les feux de la Saint-Jean, je vous les recommande, parce que si vous n'avez jamais vu quelque chose, si vous n'avez jamais vu ça, il faut aller voir. C'est bouleversant, hein. C'est vraiment bouleversant. Moi, je suis pas encore remis du dernier. Et pourtant, j'ai pas bu du tout ce jour-là. Non, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Je sais pas comment vous arrivez à tirer.
On vous a tenu au frais, parce que vous aviez le pantalon dans l'eau.
Ah oui, c'est bien. Mais je ne sais pas quel est votre secret pour...
Je pense que c'est d'abord...
Pour amener ses enfants à un enthousiasme pareil.
Je pense que c'est le charisme du père Revet qui nous a été, transmis. Moi, j'ai vécu à ses côtés. Il avait un tel désir pour l'éveiller, de donner le patrimoine de la France, de donner tout ce qu'il ressentait, qu'il faisait avec tellement de brio et de grâce que c'est un moyen puissant d'apostolat pour des enfants défavorisés d'abord et pour la jeunesse en général. Autrefois, vous le savez bien, c'était dans les chaumières, au coin du feu, qu'on transmettait tout ce qui concernait nos martyrs, nos héros, et c'était très très beau. Et ça existe.
Alors le père Revet, c'est le vrai héros de votre livre qui s'appelle comment déjà?
Riomont, passion et résurrection. Il y a un chapitre qui est spécialement consacré au père Revet.
Il revient tout le temps, le père Revet.
Oui,
il se promène dans le livre partout.
Oui,
là.
Oui, oui.
On l'entend, on le voit. C'était un personnage assez incroyable.
Oui, oui.
Un colosse comme ça.
Oui. Il était très très grand.
J'espère que je porte pas atteinte à ses mémoires en disant quand même un peu fou, parce que avec sa.
C'est la folie de la croix, parce que oui.
Un motard,
un conteur, un polyglotte, un professeur de grec, de français, un spécialiste des veillées, un bâtisseur, un constructeur. Moi, je l'ai vu debout prendre des bordures de trottoir, les soulever et les passer dans les camions pendant des heures comme ça, hein. Et dernièrement, j'ai rajouté quelques lignes à mon livre. Il était monté sur une sorte de dompeur. C'est ce que c'est qu'un dompeur. C'est une sorte de tracteur qui a une benne et qui charge des pavés. Et ce tracteur, ce dompeur, a pris feu. Et il a flambé dessus. Et il est, parce qu'il y a un chapitre consacré à tous nos incendies, parce que le diable essaie toujours de détruire Riomont par le feu, depuis le début. Depuis le début de Lens, d'ailleurs, rue de l'Hospice. Et il est sorti enflammé. Et c'est une ancienne chef ten scout des débuts de Riomont qui m'a rappelé ce fait dernièrement. Elle l'a vu sortir. Et alors, sa soutane est flambée à l'arrière. Il a fallu l'éteindre. Il était en train de flamber, quoi. C'est quand même fabuleux. Il avait une volonté. Et puis, aussi.
Je vais vous raconter un épisode dans ce bouquin qui est formidable. C'est, il part à moto et il a un accident et il se bousille complètement l'épaule. Mais bousillé, vraiment, c'était de la
poussière d'os.
Poussière d'os. Et il est rentré, il a
d'Allemagne.
Fait combien de kilomètres?
Je sais pas, il a fait d'Allemagne. 700 ou 800 kilomètres. En rentrant avec une main.
En conduisant une moto d'une main. Alors, j'invite les motards à...
Comment ils passaient les vitesses, c'était...
Alors, non, il y avait, à un moment, il y avait un type qui était derrière lui, qui l'aidait quand même à passer les vitesses. Et il est rentré avec une main.
Je crois que vous faites bien, l'un et l'autre, de souligner cet aspect de la personnalité de Père Revet, parce qu'on aime bien, en France et dans les pays latins, je pense à Don Camillo qui tape sur la gueule de Pépin, on aime bien le côté physique. Et peut-être que notre ami Pascal nous ajouterait même paillard, des curés qui boivent, qui cognent, des aumôniers du rugby qui disent « il vaut mieux donner que recevoir ». C'est quelque chose qui nous attache au moins d'un point de vue culturel, sinon spirituel, au clergé catholique depuis si longtemps. Ce côté qu'on est obligé d'opposer au parpaillot souffreteux, déprimé, livide.
Ce qui est formidable, c'est que la foi permette non pas de soulever des montagnes, mais des bouts de trottoir.
Et en granit quand même, hein.
Kilomètres.
C'est
il faut
granit,
mettre ça sur un don de Dieu. Il faut montrer aux gens notre force. Les catholiques doivent montrer leur force. Trop souvent, ils ne la montrent pas.
Du Père, et c'est ça le contenu de ce livre. C'est le catholicisme plein de peau. Alors, et puis il y a de la viande, il y a de l'os,
C'est de l'action.
Ah oui,
c'est l'action du père Arouache.
C'est pas une rêverie.
Est formidable aussi, n'est-ce pas, ramasser tous ces enfants des rues, les discipliner, leur apprendre la vérité.
Le gros problème, c'est qu'on se retrouve dans une société où il y a tellement d'interdits qu'on ne sait plus si on pourra encore s'occuper d'enfants.
Ah ben, ce qui est
parce qu'il y a toutes les questions de sécurité, toutes ces questions-là, et c'est terrible.
Ce qui est absolument certain, c'est que ce que vous racontez de le premier événement fondateur de Rurmont, aujourd'hui c'est impossible, puisque l'histoire, on peut la raconter, je crois que c'est le premier chapitre. Le père Revet participe à une réunion de prêtres, et il y a un des prêtres qui dit, bah, écoutez, il y a là un gamin, ses parents sont séparés, ils ne veulent pas de lui, on ne sait pas quoi en faire, est-ce que l'un de vous veut s'en occuper? Alors il y a un lourd silence dans la salle, parce que tous ces curés du Nord, ils vivent dans des conditions, ça se passe dans les années 50, c'est d'une dureté incroyable, ils crèvent de faim, ils crèvent de froid, ils se disent, un gosse à la maison, c'est impossible. Et le père Revet dit, au bout d'un moment,
une minute de silence,
puis il dit, ben moi je vais le prendre. Aujourd'hui, immédiatement, il aurait sur le poil toutes les institutions qui diraient, mais attendez, qui êtes-vous, de quel droit, pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Voilà, il prend le gosse, il l'installe dans un chalet,
dans un hamac.
Il l'a récupéré dans un vieux.
Il faisait beaucoup les blocos à Calais. Il avait récupéré un tas de choses. D'ailleurs, Riomont est un musée parce qu'on a énormément de choses de la guerre 14-18, 39-45. Dès qu'il trouvait quelque chose, un costume, un uniforme, etc. Et donc ce hamac, c'est le premier berceau de Riomont et c'est le symbole du camp aussi. Ouais. C'est le symbole du camp. C'est superbe.
Et alors il le nourrit, bon, comme il peut. Quand il y a d'autres gosses qui viennent, qui s'agglomèrent à ça, enfin, il crée pratiquement de force un centre d'accueil des enfants malheureux.
Ah oui, dans le chalet, il y avait des couchettes comme dans un train. Et puis il allait chercher à manger dans les maisons du quartier. Les gosses réparaient leurs affaires.
Ça c'est drôle. Quand les gosses rentraient déchirés, je peux raconter. Les gosses rentraient avec leurs chemises déchirées ou leurs pulls arrachés ou leurs pantalons décousus et tout. Le père Robert disait va chez les voisins, tu sonnes, tu prends n'importe quelle porte, tu sonnes et puis la bonne dame qui habite là, elle va te réparer tes vêtements. Et alors les gosses allaient, ils sonnaient et puis ils disaient madame voilà, regardez mon pull au vert. Oh ben rentre mon petit, je vais te refaire.
Ça c'est comme ça.
C'est incroyable, c'est
comme ça qu'il a pu démarrer.
Invraisemblable.
Jusqu'au jour où il y a eu c'était le démarrage de Riomont, cet incendie qui a ravagé tout le chalet mystérieusement. C'était le premier incendie. Les pompiers n'étaient pas très loin puisqu'il y avait ce qu'on appelle une ducasse, donc une foire dans le nord. Ils sont intervenus 5-10 minutes après et ils ont constaté le sinistre. Il n'y avait plus rien, tout a été brûlé.
Alors ça, c'est un autre aspect du livre qui est jalonné d'incendies. Enfin, l'histoire de Riomont est jalonnée d'incendies avec des circonstances incroyables, des phénomènes totalement inattendus. Il y a notamment une statue de la Vierge qui devient une statue de la Vierge noire qu'on retrouve dans les débris d'un incendie. Enfin, non, alors le livre existe, je peux en témoigner, je l'ai lu. Donc il existe, Raspail l'a lu, il en a fait la préface, et il va paraître pour le 13 mai.
Oui, c'est ça, on pensait qu'il sortirait le 28 avril pour cette journée scout de Villepreux. Il sortira sûrement le 13 mai pour la fête de Radio Courtoisie.
Vous viendrez le présenter à la fête de Radio Courtoisie.
Voilà.
Alors, pour l'instant, on peut continuer à le commander. Oui,
on peut continuer à le commander. Il y avait une souscription. La souscription a rempli son office, c'est-à-dire qu'on a l'argent pour l'éditer maintenant. Et donc, on peut toujours le commander ou l'acheter à la fête de Radio Courtoisie.
Un auditeur demande, est-ce que vous êtes habilité à recevoir des taxes d'apprentissage?
Non, c'est le gros problème et je voudrais redire que l'État nous empêche de progresser et malheureusement, ceux qui aiment bien les apprentis d'Auteuil seront peut-être choqués, c'est qu'on a demandé un parrainage aux apprentis d'Auteuil du Nord-Pas-de-Calais qui ont plusieurs maisons. Et c'était facile d'ouvrir une section chez nous, puisqu'il d'ailleurs dans un article magnifique, il disait qu'ils avaient trop d'argent, qu'ils pouvaient créer des sections. Ils ont refusé de créer une section.
Mais donc, parce que vous êtes catholique.
Parce que nous sommes Riomont. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en dire.
Leur louange mercredi dernier.
Alors je le regrette.
On a parlé du restaurant, ça n'a rien à voir.
Je le regrette parce que Riomont, c'est comme une œuvre des apprentis d'Auteuil. Ce que je dis toujours. On fait le même travail. En plus, on aime le père Brottier de tous les saints. Les saints éducateurs, mais c'est grave. Et alors, on doit faire une énorme ébénisterie. On a eu le permis de construire, dernièrement, on fait une grande, parce qu'on construit une église, donc il faut une énorme ébénisterie, on a eu le permis de construire, mais il faut trouver l'argent pour construire cette ébénisterie.
Ah, village, le garveur.
Il y a l'ébénisterie, il y a l'église, il faut tout donner pour l'église, et l'église, il faut vraiment voir le chantier. Le chantier est extraordinaire. Nos garçons, ils sont associés dans une sorte d'école, et avec le système des corporations, comme au Moyen-Âge, ils sont associés au chantier, ils sont valorisés par ce chantier. Et puis, le village breton, c'est la troisième chose. Il faut sortir ce village qui est enserré dans la forêt pour en faire un lieu, pour faire un centre agréé. Moi, je rêve un jour qu'il y ait des grands garçons, on en parlait tout à l'heure, qui est entre 18 et 24 ans, et qu'on puisse s'occuper de ces garçons, parce que pour l'instant, il n'y a personne. Guy Gilbert fait ce qu'il peut, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut s'occuper de jeunes de 22 ans. Il faut absolument faire quelque chose pour eux. Voilà.
Merci, mon père. Alors, une adresse unique, s'il vous plaît, où on peut rassembler tous les renseignements absolument. Sur toutes vos activités. Voilà. On vous écrit à...
Village d'enfants de Riaumont. R-I-A-U-M-O-N-T, BP28, 62-801, Liévin, L-I-E-V-I-N, CEDEX.
Et le site internet riaumont.net.
Voilà, et comme ça, vous aurez tous les renseignements. Alors, des annonces, puisque Victoria n'est pas là. J'ai oublié de lui souhaiter un bon anniversaire.
Oh, mais c'est très vilain. Mais Victoria. C'était hier, je crois, d'après l'affiche que je possède sur son cas.
Hier, j'étais pas à la radio. Je publiquement annoncé que Victoria a 20 ans. Depuis un certain temps déjà, mais elle a 20 ans. Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, 75002 Paris, conférence de Jean Madiran, mardi 17 avril 2007 à 20h. L'accord entre Rome et Moscou sur le communisme. C'est un sujet passionnant.
Ça. 2 minutes, Serge.
2 minutes. Signature à Duquesne Diffusion, samedi 14 avril, concurrence, mon cher Alain, je suis désolé, mais Jean-Claude Rollina signera son livre « Hommes à poigne et dictateurs oubliés de l'Amérique exotique ». Et connaissant Rollina, je n'ai pas lu son livre, mais ça doit quand même être assez poilu. Patrick Goffman, le 1er mai, à la librairie nationale 12 rue de la Sourdière, Paris 1er, métro Pyramide, succédera à Alain Pascal
samedi 14.
Lui, le samedi 14 signera dans cette même librairie
14-18h
voilà, son livre la Renaissance, cette imposture
Davaille.
Davaille, mais il y a quelque chose que je veux absolument
minute quoi.
Voilà, Marie-France Tirebois, une messe pour le premier anniversaire du décès de Marie-France sera célébrée le samedi 21 avril, c'est-à-dire pas samedi prochain mais le samedi suivant à 10h30, en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, 23 rue des Bernardins. Vous êtes invité à vous associer par votre présence ou par votre prière à cette messe. Et puis, le 19 avril, c'est-à-dire dans 15 jours, enfin la semaine prochaine, au parloir du Vieux Colombier, Alain Lanavert donnera une conférence qui sera certainement passionnante. Blasphémateur en littérature, Lucien Robatet, les deux étendards.
Bistrey.
Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Non, il y a une dédicace de Marc Dugois, oui, à la librairie Murat, demain à partir de 18h, on a reçu l'auteur.
Demain 12 avril.
Voilà, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 3 heures. Je dis ça pour les 2 ou 3 auditeurs qui ne sont pas morts de fatigue, d'épuisement ou de colère. Et puis, à bientôt, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 11 avril 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.